Ils sont exactement 11h passées les 18 minutes à Bukavu. Amis sportifs, bonjour et merci de nous retrouver dans ces nouveaux cafés sportifs dominicales sur Radio Mindeléo. C'est toujours un plaisir de nous retrouver dans ces cafés sportifs sur la fréquence qui relie les communautés. En ce dimanche 19 juillet 2026, la technique est assurée par Joseph Tizungo. La présentation, Héritier Boroto. Au sommaire des sports pour tous, ce dimanche, Coupe du Monde 2026, les rideaux tombent sur la compétition ce dimanche avec la finale inédite entre l'Argentine, tenant du titre, et l'Espagne. Les deux nations se retrouvent dans une finale d'une Coupe du Monde avec comme ambition de décrocher les titres. Il s'agit également d'un duel dans un autre, puisque l'un des meilleurs joueurs dans l'histoire du football, à savoir Lionel Messi, affronte peut-être celui qui passe pour son successeur, Lamine Yamal. Argentine-Espagne, le coup d'envoi de la rencontre sera donné à partir des 21h, heure de Bukavu. Mais hier, en match de classement, l'Angleterre a décroché la troisième place après sa victoire 6-4 face à la France. Bukayo Saka a réussi un triplé du côté anglais, alors que pour les Bleus, Mbappé a réussi un doublé devenant du coup le meilleur buteur de la compétition et ce avant la finale de ce dimanche, puisqu'avec 10 buts à son compteur, il devance Lionel Messi qui en compte 8. Tout savoir sous les derniers carrés de cette Coupe du Monde dans cette émission Sport pour tous. Toujours dans l'actualité sur le plan national, Coupe du Congo de football, la finale c'est pour ce dimanche entre les Daring Club Virunga de Goma et l'AS Boutras de Lumbashi avec comme enjeu majeur non seulement les titres mais aussi une place en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Les basketball avec la phase des 6 à l'entente urbaine des basketball de Bukavu sera au rendez-vous dans ce café sportif dominical sur Radio Mindeléo. Merci de prendre place à bord, sport pour tous, c'est parti. Une fois de plus, amis sportifs, nous sommes donc très heureux d'être ensemble dans ce nouveau numéro de votre émission Sport pour tous. Ça a toujours été un vrai plaisir de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Sport pour tous. Tous les dimanches, sur Radio Mindeléo, par instant, on est ensemble pour parler sport. Je rappelle donc l'équipe qui est là ce dimanche. Joseph Tizungu assure la mise en onde de cette émission. Je suis Héritier Boroto, la présentation, accompagné de plusieurs invités avec lesquels nous allons essayer de parler sport ce matin. Mais avant de vous les présenter, je vous rappelle que cette émission sera rediffusée déjà ce soir à partir de 21h heure de Bukavu. Elle sera postée juste après sur le site internet de Radio Mindeléo. Nous sommes sur le www.radiomindeléo.org. Nous sommes également suivis online sur le site internet de Radio Mindeléo d'ores et déjà. Nous disons merci à tous les amis qui suivent Radio Mindeléo sur le site internet www.radiomindeléo.org. Nous sommes joignable dans cette émission au 098 49 92 542, mais également au 084 76 35 172. Merci donc à tous les amis qui sont donc réunis à pareil instant pour suivre cette émission Sport pour tous. Les invités avec lesquels nous allons essayer de parler sport ce matin, nous recevons dans cette émission Exaucé Tchoubaka, bonjour et bienvenue.
Bonjour Héritier, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mindeléo.
Désiré Koulemouchi est là, bonjour et bienvenue.
Bonjour Président Héritier, bonjour aux amis et joyeux dimanche aux auditeurs et auditrices de Sport pour tous.
Nous sommes également dans cette émission avec Arka Tibonga, bonjour et bienvenue.
Bonjour Héritier, bonjour à tous.
Benjamin Sefou est avec nous, bonjour.
Bonjour Héritier, heureux dimanche aux auditeurs et auditrices de la Radio Mindeléo.
Nous allons recevoir dans cette émission Victor Kaloumé, il est secrétaire exécutif des Festijou. C'est donc une compétition qui va réunir les judokas au niveau de la ville de Bukavu sur le plan national. Victor, merci et bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur Héritier, bonjour à tous.
Il va nous en parler tout à l'heure dans cette émission Sport pour tous. Mais avant, je vais vous donner les programmes par rapport justement au basketball, parce que vous le savez, l'entente urbaine de basketball de Bukavu organise depuis deux semaines maintenant la phase des 6. Et ce dimanche, il y a pas mal de matchs qui sont prévus. Depuis 11h, les BC Wandafoul va affronter les BC Hirondelles. Nous sommes en deuxième division. À partir de 13h, Bukavu United en découdra avec les BC Kings. Et à 15h, les BC Caviar jouera contre les BC l'ASB Amibek. à partir donc de 15h, ce qui va constituer donc les chocs de cette journée après donc la défaite d'hier du BC Mindelo face à l'équipe du BC Kabono. Ce dimanche, Amibek va tenter de confirmer sa forme du moment face au BC Kavier. Ce sera donc à partir de 15h au stadium de Vamaro. On va donc en parler avec les amis dans cette émission, les basketballs. En tout cas, cette phase des 6 s'est poursuivie normalement. Il y a eu donc hier, comme je vous l'avais dit, cette sensation avec la défaite du BC Mindelo face à Kavier, plutôt à Kabono. Kabono qui poursuit sa belle lancée désirée et devient pratiquement des sérieux prétendants au titre cette saison.
Très sérieux prétendant, c'était prévisible dès le début de la compétition. D'ailleurs, avant même le début de la compétition, parce que Kabono a fait une bonne pré-saison en remportant déjà le tournoi de pré-saison. Ça faisait longtemps que les Côtelés n'avaient plus remporté des titres. Ils ont remporté, c'était je crois, Holiday Cup, un tournoi de pré-saison organisé par le Babouk et ses partenaires. Et Kabono a montré de belles choses, une bonne image. Et on se disait, par rapport à d'autres équipes qui se préparent, qui n'existaient presque plus, on ne voyait plus, à part le nom, on ne voyait presque personne. D'ailleurs, certaines équipes n'ont pas pris part à ce tournoi. Et de lors, on a cru que Kabono pouvait proposer quelque chose pour la saison à venir. Ils l'ont fait. Après, ils allaient en décrescendo. Heureusement, ils se sont ressaisis au meilleur moment. Ils ont joué leur premier match de la phase de 6 face à The Kings, qui n'est pas un foudre de guerre. The Kings, c'est pas l'adversaire à faire douter Kabono, mais quand même, les doutes persistaient du côté de Kabono. Mais hier, ils ont dissipé tous les doutes. C'est vrai, ils ont joué le samedi antérieur le match qui n'a pas connu une fin normale parce qu'une forte pluie s'était abattue sur la ville de Bukavu, obligeant les organisateurs à reporter le match. On sentait déjà des bonnes choses, mais hier, c'était notre niveau, c'était notre basket. Ils ont littéralement terrassé Mindelo. Je me permets l'expression. C'était un peu drôle, c'était un politique. Quelqu'un disait, on a soulevé la jupe, c'était parti politique. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien en dessous.
Oui, parce qu'il faut dire que le score final, c'est 101 à 75 pour Kabono, qui a réalisé un 3 chiffres avec le MVP du match, Kuzma Frédéric, qui a réussi 23 points, 3 rebonds, 3 assists. Donc ça veut dire...
Il est sur un nuage. J'allais dire, Kabono l'a fait, on a senti qu'en dessous de la robe de Mindelo, il n'y avait rien. Ils ont fait passer les joueurs de Mindelo pour des amateurs. Ils les ont littéralement dominés du début jusqu'à la fin, malgré l'expérience du coach Patrick Djunga, malgré tout ce qu'il a essayé de mettre en place tactiquement. Rien n'a marché. Kabono est tout simplement irrésistible et inarrêtable pour cette saison.
Irrésistible et inarrêtable cette saison. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être le départ des Chosport a sublimé certaines équipes, a libéré certains espaces, ou tout simplement Kabono profite peut-être
des absences. Non, j'aurais voulu
de
voir.
Ce faux pas, du moins du fait que Mindelo et Amibek, qui sont les vrais miroirs du basketball à Bukavu, ne sont pas au mieux de leur forme, ou n'ont pas recruté tel qu'on l'attendait.
J'aurais voulu voir cette version de Kabono face à Chosport, version Kabono au côté ambition, parce qu'on sent que de ces côtés-là, on est ambitieux. C'est vrai, il y avait un mercato qui s'annonçait, alors qu'on annonçait encore Chosport ici à Bukavu. On se disait, Amibek a recruté, Mindelo prépare quelque chose, Kabono préparait quelque chose également. J'aurais voulu voir. Ils ont peut-être revu leurs attentes, ouais, leurs attentes à la baisse. Peut-être qu'ils auraient, peut-être qu'ils allaient faire mieux. On ne sait jamais.
C'est Kabono, on n'est pas loin des caviars de la saison intérieure, pour moi.
Non, possible. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance et qui profite également de la fébrilité et du manque d'organisation d'autres équipes, il faut les dire. Ils ont étoffé leur ossature avec trois nouveaux venus. Et ces trois nouveaux venus, il y a déjà deux qui jouent. Un autre ne joue pas encore. On dit qu'il est le plus fort de trois recrues. Mais les deux recrues déjà sont déjà en train d'imprimer leur marque. Donc, ils sont vraiment, vraiment imbattables. On a senti les sérieux, l'engagement. Lorsque vous regardez déjà le collège des dirigeants des Kabono, façon dont ils sont passionnés, façon dont ils sont dans le match, façon dont ils contestent, façon dont ils accompagnent le joueur, façon dont ils accompagnent les accompagnateurs dans ce sens, on sent quand même qu'ils sont engagés. Et pour moi, c'est le plus important dans un projet. Lorsque tous les acteurs sont engagés, il ne peut y avoir qu'un résultat positif. Ils ont failli faillir à leur mission à certaines périodes. Ils n'ont pas respecté leur engagement à la fin de la phase de 6 envers le coach, envers certains joueurs. Ils ont réglé ces petits soucis. C'est les seuls soucis qui persistent. Et là, je crois que la machine peut redémarrer de ce côté Kabono. Peut-être que j'aurai le temps de parler également du BC Amibek. Le mal qui entachait le BC Kabono à la fin de la phase de 6, c'est le mal qui est en train de retrouver le BC Amibek. C'est inquiétant, j'espère qu'on aura des temps.
Voilà. Avant de parler de ce match entre Caviar et Amibek, on va faire un zoom sur cette équipe de Kabono qui, à mon avis, risque de surprendre encore beaucoup plus cette saison.
Bon, est-ce qu'ils n'ont pas encore surpris? Je pense qu'ils ont déjà surpris.
Bon, on est encore à la phase des 6.
Hier, la phase des 6 a commencé, parce qu'elle a commencé timidement. Voilà, c'était une déception hier.
Il y aura une phase de play-off juste après.
Oui, c'est vrai.
Et cela va décider peut-être sur le sort du championnat. Mais pour l'instant, est-ce que pour vous, Kabono joue très bien sa carte?
Oui, très très bien. Comme l'a dit Désiré, ça a été un peu timide au début de la phase des 6. On parlait même de ces matchs qui n'a pas connu de fin normal contre Caviar. Vous avez vu comment c'était. On ne pouvait pas avoir une équipe des Kabono comme ça parce que c'était une équipe qui a beaucoup douté. On dirait qu'ils apprenaient à shooter en plein match. Voilà, ça, rien n'est marché. Et quand les deux hommes forts des Kabono ne sont pas dans leur grand jour, Kuzma et Melo, vous sentez que l'équipe baisse un tout petit peu. Mais lorsqu'ils sont à leur meilleur niveau, Kabono c'est la meilleure équipe et ils mettent tout le monde. En dessous d'eux. Donc c'est une équipe qui s'est bien préparée. Aujourd'hui, ça se voit qu'ils sont vraiment exceptionnels. Désiré a parlé des renforts qui sont arrivés. Pour leur premier match contre Caviar, j'ai pas vu grand-chose. D'ailleurs, c'est d'ailleurs à l'exemple de toute l'équipe qui n'a pas donné grand-chose contre Caviar. Mais après, bon, voilà, on a vu qu'ils se sont bien adaptés. Et hier, ils ont été magnifiques. Contrairement à Désiré, moi je ne dirais pas qu'à l'intérieur de la robe Mahendeleo il n'y a rien à l'intérieur. Donc,
qu'est-ce qu'on pensait?
Moi je ne dirais pas ça parce que au courant de la semaine, n'oubliez pas que Mahendeleo a eu quand même un match très difficile à disputer mercredi dernier contre Caviar. Donc normalement ils sont arrivés fatigués. Vous avez vu le tournant du match, c'est au troisième quart-temps, ils étaient crevés, fatigués, alors que Kabono aujourd'hui c'est la profondeur du banc avec des renforts qui sont arrivés. Donc je pense que il y a eu ces facteurs-là,
ils les ont fait passer pour des amateurs.
Bon, effectivement, on ne réfléchit pas, mais on ne peut pas quand même manquer des
sauvages. Ils sont forts, mais par rapport à l'adversaire.
Ouais, la fatigue et tout, du côté de Mandelo, je pense que ça pourrait être une excuse. Pendant que Kabono n'en a joué que le samedi dernier, depuis le samedi, ils n'ont plus joué jusqu'ailleurs. Donc je pense que c'est une excuse d'ailleurs qui peut passer pour Mandelo. Mais Caviar, plutôt Kabono, a été tout simplement exceptionnel.
Voilà, Benjamin, pour vous, ça vous surprend la forme actuelle de Kabono qui pratiquement. Passe par comme la meilleure équipe pour l'instant de notre championnat, en attendant peut-être que la nouvelle phase arrive.
Non, ça ne me surprend absolument pas du tout. Je le disais déjà dès les débuts de la compétition, dès les débuts de ce championnat, à l'occurrence, que Kabono était l'équipe la plus nantie, était l'équipe la plus préparée, était l'équipe la plus armée également pour aller au bout de cette compétition, de ces championnats. Et chaque week-end, ils sont en train de confirmer leur statut des leaders, leur statut de l'équipe la plus forte de la compétition. Et comme l'aîné Désiré l'a dit, ils avaient déjà une équipe assez solide, une équipe assez hermétique, une équipe assez soudée, et à cela rajouter les renforts qui sont venus. Ce n'est que de bon augure pour cette équipe des Kabono. Hier, on a eu l'impression, ils ont vraiment donné une impression d'invincibilité. Plus les matchs avançaient, plus on voyait toute la supériorité de cette équipe. Et avec cette image qu'ils nous ont démontré hier, je pense que ça sera vraiment difficile d'aller chercher cette équipe des Kabono.
Voilà, il faudra donc mettre un paquet double pour faire tomber cette équipe des Kabono qui n'a pas encore affronté Amibek. Hein.
Amibek.
Il faut attendre peut-être le match contre Amibek pour confirmer. Mais pour l'instant, ce qu'ils font, c'est,
on
c'est
avait tout déjà simplement vu à quoi exceptionnel. Pouvait ressembler une affiche pareille.
Amibek, c'est à l'image également de ces familles Maïndileo. Donc moi, je pense que ce qui fait Kabono actuellement, c'est le fruit de ce qu'ils ont mis comme objectif depuis le début de ces championnats. Et la déception côté Babox, c'est de voir que les équipes qui pouvaient être très attendues après le départ des Chosports ne se sont pas réveillées, ne se subliment pas jusque-là. Même déjà dans cette phase de 6, ils semblent encore être endormis sur leur... ils semblent encore n'avoir pas entré dans la compétition, ce qui est malheuré. Et moi, personnellement, je ne vois pas peut-être même Maïndileo, pas Maïndileo, mais Amibek faire du mal à une équipe qui est déjà très bien préparée, bien outillée, peut-être pour aller jusqu'au bout de ce championnat, qui est celle des Kabono. Ils l'ont encore prouvé hier face à l'une des équipes qui pouvait être supposée comme étant favori au titre après les départs des Chosports, celle de Maïndileo. Et voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas volé leur victoire, ils n'ont pas volé jusque-là leur parcours jusqu'à cette étape de la compétition. Ils l'ont prouvé même durant les championnats. Et je souhaite bonne chance à Kabono. J'espère que s'il continue sur cette belle dynamique, on n'est pas loin d'avoir un représentant, peut-être d'ici de Kivu en Coupe du Congo, qui n'est pas ni Maïndileo ni Amibek. Oui.
Voilà, il y a ce match ce dimanche qui est très très attendu. Entre Caviar et Amibek, c'est vrai, ça ne sera pas les tournants cette phase des 6 parce que Amibek est sur une très très bonne série. Même chose pour Caviar, mais ça va être palpitant, même si c'est pas l'équipe de Caviar hein, à laquelle on a été habitué peut-être la saison passée, hein.
Oui.
La saison antérieure avant justement que la guerre ne commence.
Oui, avant d'aborder ce match, permettez-moi, il y a une nouvelle expression. Qui m'a été soufflé. J'ai beaucoup apprécié l'analyse de Ryan Cherki après France-Espagne. Et je crois que c'est la seule situation qui peut arriver à Kabono. Kabono est le super favori. Mais je crois que le seul adversaire dans ces championnats pour Kabono peut être Kabono lui-même. Donc c'est dans ce sens. Si Kabono ne joue pas contre lui-même, si Kabono ne perd pas contre lui-même, en tout cas je ne vois pas une équipe capable de faire barrage à Kabono pour le titre. La seule équipe sur laquelle on pouvait compter, ce serait le BC Amibek. Mais j'apprends en tout cas qu'il y a un mal profond qui ronge cette équipe du BC Amibek. Il y a un problème organisationnel, un désordre qui ne dit pas son nom dans cette équipe. L'irrespect d'engagement, déjà pour les staffs, je crois qu'il y a un couac avec les staffs techniques. Le joueur ne s'entraîne plus, on voit une équipe sur terrain, c'est juste les individualités qui parlent. Tel se joue au basket, il est dans Amibek, il joue au basket, il donne le meilleur de lui-même, et ça marche, il donne. Mais on ne sent pas un collectif. Pourquoi il n'y a pas de collectif? C'est parce que l'équipe ne s'entraîne pas, tout simplement pas. Et si l'équipe ne s'entraîne pas, c'est difficile que l'équipe puisse gagner. Contre une équipe qui a une bonne cohésion contre celle des Kabono, contre Caviar le samedi passé, exaucé par les recrues, on a senti qu'il n'y avait pas encore de cohésion parce qu'ils venaient d'arriver. Ils avaient du mal à combiner avec les autres. Mais après une semaine, on sent que l'équipe s'entraîne, les joueurs s'entraînent ensemble. Ils ont pu trouver cette cohésion et ils ont rajouté un plus à cette équipe. Chez Amibek, c'est le contraire. Plus le jour avance, plus on sent des tâtonnements, la cacophonie dans les jeux. On sent que la confiance et la cohésion sont en train de s'envoler petit à petit et ce n'est pas de très bon augure. Contrairement au Caviar également, qui s'entraîne presque tout le jour et qui s'améliore du jour de jour. Du coup, je commence même à m'inquiéter pour le match d'aujourd'hui, pour le BC Amibek. Ne soyez pas surpris qu'Amibek tombe face à Caviar aujourd'hui. Bon, l'effectif, ce sera très difficile, mais Amibek ne peut gagner contre Caviar aujourd'hui que seulement grâce aux individualités qu'il y a dans cette équipe du BC Amibek.
Donc, en termes de
grâce aux efforts fournis, mais grâce au collectif, une équipe qui ne s'entraîne pas, je ne vois pas comment elle va gagner, moi.
Oui, parce que il y a quand même une renfort peut-être au niveau du staff technique. Ils ne s'entraînent pas, peut-être qu'il y a des raisons. Hein. Il y a des raisons, peut-être.
Si les joueurs ne viennent pas à l'entraînement, si l'entraîneur, par exemple, s'est présenté à l'entraînement, qu'il n'y a que 2-3 joueurs, vous voulez qu'un entraîneur fasse quoi?
Voilà. C'est à l'image de la saison, de ce que est devenu Amibek. Hein.
Oui, et puis moi, ça ne m'étonne pas autant que ça. Ami, on sait tous que les désordres font partie inhérente de ces clubs. Ça a toujours été ainsi. Moi, j'ai déjà.
C'est pas un compliment. C'est pas un compliment.
Ce n'est pas un compliment. C'est un constant, pardon. Moi, j'ai déjà vu Ami Beck remporter les titres ici avec uniquement ses joueurs.
Ouais.
Donc, Ami Beck, c'est une équipe capable du pire comme du meilleur, mais c'est une équipe et c'est ce que j'aime le plus chez nos amis des Ami Beck. C'est une équipe très résiliente et qui sait faire une union sacrée lorsqu'il le faut. Ils savent vraiment mobiliser tout le monde autour d'un idéal lorsqu'il le faut pour aller chercher quelque chose. Un sursaut d'orgueil, ça a toujours été ça à Mibek. La saison antérieure, à un moment donné, après la gifle reçue par, je pense, c'était Ponzi, avec ses scores à trois chiffres, on se disait tous que ça allait être compliqué, catastrophique pour Amibek cette saison, mais après il s'était remobilisé. Après il y avait eu ces sursauts d'orgueil et on a vu Amibek qui avait finalement marché sur tout, enfin presque sur tout le monde pour aller jusqu'en finale. Et donc moi je ne m'inquiète pas, comme je le disais déjà, plus que ça pour nos amis des Amibek. Lorsque les choses seront plus sérieuses, lorsque il faudra
oui, mais ça se prépare, vraiment ça se prépare avant, ce n'est pas bon. Quand la phase des play-offs va commencer, les lignes vont bouger.
Ça, ce n'est pas Amibek. Amibek, parce que nous savons les codes des préparations, les codes qui doivent respecter une équipe sérieuse. Ça, ce n'est pas Amibek. Amibek, c'est d'abord une âme. Et voilà. Cette âme, tant qu'il y aura des garçons Bek, tant qu'il y aura des gens qui aiment Amibek, tant qu'il y aura toujours cette effervescence autour de cette équipe, ça sera difficile que cette équipe tombe au plus profond de la cuve comme l'on est en train de l'entrevoir. Donc moi, je vois bien cette équipe se réveiller lorsque les choses seront sérieuses. Lorsqu'on va tirer sur l'ambulance.
Oui, mais l'inquiétude de Désiré est fondée. On ne peut pas être en train de jouer une phase des 6 qui vous prépare peut-être à la phase des play-offs, qui est une phase décisive de la saison et qui vous permet peut-être non seulement de décrocher les titres, mais d'aller jouer également la Coupe du Congo. Et qui est dans une phase qui est peut-être des transitions comme ça, on ne sent pas une certaine mobilisation. Les joueurs ne s'entraînent pas, il n'y a pas. Contrairement peut-être à Kabo, on les voit souvent motivés avec de nouveaux joueurs. Donc ça veut dire que c'est manque de séries entre guillemets, tel qu'on le dit, dans les chefs de certains de tes athlètes. Est-ce que ça inquiète quand même?
Oui, ça inquiète. Normalement, ça devrait inquiéter, mais moi, connaissant Amibek, comme je le disais et je le répète encore une fois, ça ne m'inquiète pas autant que ça. On avait vu déjà la saison antérieure, lors de la phase décisive, il y a l'armada burundaise que Amibek avait ramenée ici à Bukavu. Tous les joueurs, enfin presque tous, étaient répartis chez eux. Et là, on se disait, mais ça, c'est vraiment un coup dur pour Amibek. Ils ne sauront pas faire face à, par exemple, Maendeleo. On va même pas parler de Showsport. Faire face à Maendeleo ou à Kavia, mais contre toute attente, c'est Amibek qui avait battu Kavia, qui était la deuxième meilleure équipe de la de cette saison-là. Il avait battu Maendeleo à deux reprises, face des 6, et je pense, face des 6. Et puis, pour le playoff, Amibek avait réussi à éliminer cette équipe effroyable des Kavia. Donc moi, je me dis que lorsque le moment décisif viendra, lorsqu'il faudra vraiment que Amibek confirme son statut, moi je vois bien ces joueurs-là avec un Michael Bwanga qui s'est décisif, un Michael Bwanga qui s'est très ambitieux. Moi je vois cette équipe aller jusqu'en finale.
Voilà,
je veux pas le contredire pour rien, mais je suis dans ce basket, j'écoute les gens. Lorsque j'entends ici les gens dans une même équipe, pas au même endroit, les gens se plaindre pour différentes raisons dans une même structure, je comprends que dans la structure, il y a un ça ne va pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est une équipe qui a l'habitude de se réveiller lorsqu'elle est giflée. Mais la première gifle est arrivée face à The Kings. Ils ont un peu renforcé leur ossature avec Albert, qui est jusque-là le meilleur joueur du BC Amibek, Albert Omumbu. Il y a Michael Bwanga qui est arrivé. On n'a pas encore senti, on n'a pas vraiment senti son apport jusque-là. J'espère que ça va arriver. Il y a la coach Christelle Iranga qui est là, mais on peut voir sur son visage que c'est pas la plus heureuse du monde, en fait. C'est pas, il suffit pas qu'elle vous dise qu'elle n'est pas heureuse dans cette équipe pour les sentir. On peut le voir dans ses agissements. Et si elle n'est pas heureuse, c'est peut-être parce que il y a un manque de connexion avec tout son staff, toute son équipe. Et j'espère que ça va se régler. ça pourra se régler si il y a de nouveau une gifle, parce que c'était pas loin malgré la victoire contre The Kings le dimanche passé. The Kings a tenu face à Mibek alors que c'était une équipe des The Kings qui n'était pas complète également. Il faut le rappeler. Donc ça peut être, ça pourra être compliqué aujourd'hui face à Caviar, et j'espère que il y aura un événement. Il pourrait y avoir quelque chose dans cette équipe qui va une fois de plus réveiller le BC Amibek. Sinon, ce qu'on a à vous dire, c'est que rien, ça ne va pas, ça risque de pas marcher. Je vous rappelle, j'étais dans cette émission lorsque Amibek a perdu face à The Kings. Il y a un membre de Mindeleo qui m'a dit non. Non, j'ai dit non. Vous fêtez quand ça brûle chez les voisins. On dit non. Je suis pas en train de fêter parce qu'Amibek a perdu, mais je suis en train de me dire que cette défaite va interpeller les staffs du BC Amibek. Cette défaite pourra peut-être interpeller, réveiller les consciences de ce côté-là. Ça n'a pas vraiment été le cas. C'est vrai, il y a eu une réaction, une petite réaction, mais n'a pas été suffisante. On attend peut-être une nouvelle gifle pour qu'il y ait un réveil et peut-être un démarrage enfin pour le BC Amibek.
Voilà,
il faut dire la vérité, on n'a pas encore senti l'ASB Amibek pour cette saison.
Nous allons suivre tout cela de près avec cette phase des 6 en ce qui concerne le basketball. Mais retenez que pour ce qui concerne le programme de ce dimanche, depuis 11h, les BC Wonderful affrontent les BC les Hirondelles en deuxième division. À 13h, les BC Bukavu United jouera contre les BC The Kings. Et à partir de 15h, les BC Caviar en découdra avec l'ASB Amibek. Pour les prix, pour accéder au stadium, justement, il faut payer 5000 francs congolais selon les dernières informations que nous avons reçues de l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Nous allons parler d'une autre discipline sportive, les judo. On est avec Victor Kaloumé ici. Bonjour une fois de plus.
Oui, bonjour monsieur Héritier.
Voilà, vous pouvez nous parler de ce que vous êtes en train d'organiser en judo.
Oui, en judo, nous sommes en train d'organiser un festival de promotion de la paix. Mais avant de parler de ce festival, j'aimerais au moins parler du judo, les concepts, et aussi parler de ce que le judo a comme perspective. Le judo, comme le profane l'attente, excusez du terme, le judo n'est pas seulement un sport de combat, mais le judo, si on voit plus loin, le judo est un sport d'inclusion sociale et des promotions de valeurs humaines. Pourquoi nous organisons un festival? Nous nous disons que dans ce moment de crise, le seul moyen que nous pouvons utiliser pour réunir la population et les communautés, c'est les sports, parce que les sports réunissent toujours beaucoup de gens. Et par ces moyens, nous pouvons essayer de véhiculer un message de cohésion sociale qui pourrait au moins, si cela ne sera pas de manière pratique, mais on aura au moins sensibilisé la mentalité des gens sur qu'est-ce que la paix et qu'est-ce qu'on peut produire si on était informé, sensibilisé sur l'intégrité et tout ce qui va avec. Le festival, nous ne le prenons pas seulement comme un moyen de compétir, mais nous le prenons comme un moyen de... Nous ferons appel. Ce festival fait appel à des familles, des entreprises et d'autres personnes influentes qui vont s'asseoir ensemble pour parler sur la paix. Le festival de judo organise plusieurs activités. Nous organisons des activités scientifiques. Nous aurons une conférence en date du 1er août, une marche pacifique dans le cadre de santé, et à la fin, dans la soirée du 8 août, dans la soirée dans laquelle se passera, dans la même journée dans laquelle se passera la marche pacifique, dans la soirée, nous aurons une projection de film. Ce sera un film d'éducation où nous serons toujours en train de sensibiliser et de marteler sur les valeurs d'intégrité et de la paix. Et aussi, dans le même calendrier, le 9 août, nous avons un festival culturel où nous n'aurons pas seulement la compétition du judo, mais nous aurons aussi d'autres activités culturelles. Et à la fin, nous aurons une activité post-festival. À la fin de toutes ces activités, nous organisons un apostolat aussi. Le festival s'inscrit aussi dans le cadre caritatif. Donc, en gros, de manière brève, le festival est un festival d'inclusion sociale, pas seulement un festival sportif. Nous voulons sensibiliser la communauté sur les valeurs du vivre ensemble. Parce que quand nous parlons de paix, certains pensent que la paix, c'est seulement quand il y a un cessez-feu, il n'y a plus les armes qui font le bruit. Mais nous pensons que, et partant aussi de la résolution 2250 des Nations Unies, où il ne parle pas de la paix seulement comme un cessez-feu, mais il parle de la paix comme un moyen, quand nous vivons le vivre ensemble malgré les différences, nous pouvons vivre dans le respect malgré les contraintes communautaires. Et c'est là les seuls moyens que nous pouvons utiliser, c'est la sensibilisation. Là, nous entrons déjà dans le domaine du peace building, où nous commençons d'abord par l'éducation, nous éduquons d'abord les communautés, et premièrement nous prenons le jeune, parce que les jeunes, c'est la une de population, c'est là que la population se dit être dynamique et fort. Et si nous devons sensibiliser sur les valeurs d'intégrité, nous devons commencer par sensibiliser la jeunesse. C'est pourquoi, dans nos chartes de projet, nous sommes en train de faire de formation de la jeunesse. Nous formons aujourd'hui plus de 500 jeunes sur les valeurs humaines. Tout cela passe dans le cadre du judo, parce que le judo aussi a 8 valeurs principales qu'elle met à nu, d'où nous avons le respect, le courage, la maîtrise de soi et 5 autres valeurs qui corrobore avec le valeur de l'intégrité.
Et tout ça va se passer où, ici à Bukavu?
Oui, tout cela se passe à Bukavu, au stadium de Vamaro, le 9 août 2026.
Est-ce que vous avez commencé déjà la mobilisation? Parce que je comprends qu'au-delà de l'aspect sport, parce que les judo, c'est vraiment l'aspect sportif, au-delà de cet aspect, il y a d'autres aspects qu'il faut développer au courant de ces festivals. Est-ce que la mobilisation a commencé et ça s'est fait où? Et quels sont les mécanismes que vous utilisez pour que les gens puissent comprendre en fait ce que vous êtes en train de faire?
Déjà, je vais être clair et direct. Pour une première édition, nous sommes encore en train de mettre en place le moyen de mobilisation. Mais je ne dis pas que nous n'avons pas encore commencé. Nous avons déjà commencé. Nous sommes en train de sensibiliser d'abord de bouche à bouche, et aussi nous sommes en train de faire un marketing digital. Peut-être qu'il est encore un peu faible. Mais les sensibilisations ont déjà commencé, les mobilisations ont déjà commencé.
Voilà, les mobilisations ont déjà commencé. Et à part les canaux de médias, avez-vous déjà d'autres personnes qui sont intéressées par rapport à cette idée? Parce que vous avez parlé de la paix, vous avez parlé de la cohésion, c'est dont on a besoin présentement, parce qu'avec la situation que nous traversons, les gens ont besoin de se retrouver peut-être quelque part et parler ensemble autour des valeurs. Outre votre cible des jeunes, est-ce que vous avez parlé avec la notabilité au niveau de la province pour qu'elle vous accompagne par rapport à cette initiative?
Voilà, je vais répondre à cette question de cette manière. Déjà, j'aimerais dire que le festival, c'est un projet du club 300 guerriers, c'est un club de judo qui organise des événements d'inclusion depuis fort longtemps. Et si nous devons parler de mobilisation ou dire que est-ce qu'il y a des personnes qui sont informées, je dirais qu'il y a une certaine catégorie, une certaine masse de la population qui est déjà informée sans que la mobilisation ne soit déjà à 100%. Mais aussi nous avons déjà informé les autorités politico-administratives sur la question, et nous avons eu les rapports, leur soutien, et ils sont très d'accord pour que nous puissions organiser cet événement. Nous avons été à la mairie, nous avons leur soutien, et aussi nous avons informé les garants de la province, aussi il a notre soutien pour cet événement d'inclusion sociale.
Voilà, et au niveau national, avez-vous contacté peut-être la fédération de judo? C'est également très très important qu'ils vous accompagnent, hein. Les sports étant la politique, Je pense que ça peut être une motivation de plus pour vous permettre d'atteindre l'objectif.
Je pense que nous n'allons plus mâcher le mot et ne pas le dire. Aujourd'hui, je ne le dis pas seulement pour le judo, mais je l'ai dit au moins pour tout le sport. Ici, nous sommes avec les experts de la balle au panier. Nous savons tous que le sport n'est pas pris en compte en RDC. Et nous avons de fédérations.
Ouais, le sport sauf le foot, ils se concentrent au foot.
Ils se concentrent tous au foot. Ouais. Les fédérations ne sont pas vraiment dynamiques. Je n'aimerais pas m'étaler sur ces points, mais nous avons au moins informé quelques personnalités de l'entente du judo urbain qui ne sont pas ici avec nous, qui sont en déplacement. Nous avons informé au moins la Fédération nationale, quelques personnes qui sont attentives, nous devons les dire de manière claire. Et ils accompagnent cet événement de loin, même si pas de près. Parler d'accompagnement, ils sont là, ils sont des accompagnateurs moraux et nous tenons de marcher avec eux de cette façon.
Voilà. J'espère que ça va très très bien se passer. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Peut-être qu'il y a des gens comme, qui nous suivent en ce moment, oui, et qui ont besoin peut-être d'apporter leur petite contribution, avoir peut-être les détails possibles autour de cette activité. On peut vous retrouver où? Les bureaux, l'endroit où vous restez pour permettre à ce que ceux-là qui nous suivent puissent vous contacter.
Oui, vous pouvez toujours, le bureau, nous utilisons le bureau de la Fondation Patrick Bakaobana en face de la SNEL, à côté de la Galerie Fora, passé, oui, à tout moment, vous nous retrouverez.
Dans les bâtiments Latinjo, c'est Latinjo, juste en face.
Oui. Vous nous retrouverez, ouais, pour toute information spécifique, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur le réseau, sous le pseudo Festijou, même si nos comptes ne sont pas encore très assistés, mais nous avons déjà commencé. PAP, nous sommes sur Instagram et sur Facebook, d'accord, pour cette première.
Voilà, merci donc à notre ami Victor Kaloumé pour toutes ces précisions.
Oui, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas entendu les prix qu'il faudra payer pour accéder à toutes ces activités qui seront organisées. Je suis très curieux de savoir à quel prix on aura à accéder à toutes ces activités, ou combien intéressantes.
Ouais. Ok, merci beaucoup. Déjà, nous avons plus de trois activités. La première activité, c'est la conférence. La conférence sera accessible par invitation. Déjà, nous ne pouvons pas dire que la conférence sera payante. Ça serait au moins une façon dérisoire de présenter l'événement. Nous choisirons peut-être de manière au hasard les invités pour cette conférence. La deuxième activité sera une marche pacifique de santé. C'est là, elle est ouverte à tout le monde.
Tout le monde est convié.
Oui, la soirée cinématographique, elle sera aussi par invitation. Et le festival du 9 août, le prix à payer, le petit montant sera élevé à 5000 francs congolais.
Voilà. Merci.
Mais oui, président, ils disent que c'est un festival d'inclusion, mais moi, pardonnez du terme, mais je ne sens pas de l'inclusion dans leur manière de faire les choses.
Parce qu'on peut demander 5000.
Non, déjà, on va commencer par la conférence. Ils nous disent que la conférence, il y aura des gens qui seront triés par les volets. Oui, c'est-à-dire que la paix, c'est de l'apanage des certaines personnes.
Tout le monde ne voit pas comme passe.
Bah, c'est possible si c'est une conférence qui parle
de paix. Je peux répondre à la question.
C'est une question d'actualité. Nous sommes tous touchés par la situation sécuritaire actuelle. Nous
donc, vous voulez que ça soit ouvert à tout le monde.
Je pense que la moindre des choses serait que la conférence soit ouverte à tout le monde, mais que celui qui veut participer, oui, que ça soit aux gens de décider.
Je peux répondre à cette question. Je réponds à cette question d'inclusion. Vous parlez d'inclusion sociale. Aujourd'hui, nous parlons d'inclusion. Cela ne fait pas sous-entendre que c'est tout le monde qui doit être informé en premier lieu. Nous commençons par une seule personne, deux personnes. Les deux personnes peuvent aussi influencer toute la communauté. Les Bibles à l'église, la prière elle est gratuite, mais les Bibles sont payantes.
Voilà. Je sais pas si on a le temps pour.
Non, mais on n'a pas tout le temps. Notre ami a jeté les jalons par rapport aux différentes activités qui seront organisées. Nous aurons peut-être le temps d'y revenir avec lui dans nos prochaines émissions.
Je vais être invité à ton festival.
Peut-être pour avoir peut-être de l'évolution, mais je pense qu'il a compris par rapport à la recommandation, laisser que ces activités soient ouvertes à tout le monde pour permettre à ce que, bon, c'est vrai, on ne peut pas sensibiliser tout le monde au même moment. C'est par palier, donc on rencontre aujourd'hui une couche de personnes, ces personnes vont aller aller-retour sensibiliser d'autres personnes. Les soucis et l'idée est que ça soit inclusif, comme vous l'avez dit.
Oui.
Et que ça soit à la portée de tout le monde, parce que la paix, c'est tout le monde qui en a besoin.
Exactement. Hein.
Ce n'est pas seulement une certaine catégorie de personnes, c'est tout le monde qui en a besoin. Et donc, si toutes ces activités sont ouvertes à plusieurs personnes, ça peut être une raison de plus pour donner encore beaucoup plus de la couleur à toutes ces activités. Mais il faut aussi tenir compte que les organisateurs ne peuvent pas atteindre tout le monde au même moment. C'est tout ça, la problématique. Mais on va les encourager. Nous espérons que ça va très très bien se passer. Victor, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va te libérer peut-être un dernier message à adresser à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Oui, les messages que nous adresserons à la communauté aujourd'hui. Nous appelons entreprises, personnes influentes, familles, à soutenir cet événement et à participer. Aujourd'hui, nous sommes à notre première édition. Nous aimerions au moins, comme c'est la jeunesse qui s'implique pour la promotion de la paix, nous aimerions au moins avoir toute la masse de la population avec nous. Et je pense que cela sera pour un développement durable de la communauté. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Joseph Tizungu, nous allons prendre une courte pause musicale et libérer notre ami Victor Kaloumé, qui est secrétaire exécutif des FestiJu. C'est donc le festival.
Festival de judo pour la paix.
Du judo pour la paix qui sera donc organisé au mois d'août prochain, dans la ville de Bukavu, et auquel nous voudrions qu'il y ait une participation massive des gens. Pour apporter leur contribution justement à cette initiative, mais demander également aux personnes de bonne volonté d'encourager ces jeunes qui veulent également, d'une manière ou d'une autre, participer au retour de la paix au niveau de notre pays, dans la province de Sud-Kivu. Vous savez que les initiatives sont organisées par-ci, par-là. D'ailleurs, vous l'avez suivi la fois passée, que le président de la République désormais a donné les go pour la convocation d'un dialogue national. Et donc, tout cela, c'est dans la recherche de la paix. Et nous voudrions que ces genres d'initiatives soient accompagnées par tout le monde pour que notre province soit les berceaux de la paix au niveau de notre pays. Et nous allons toujours l'accompagner, ces genres d'initiatives, on va les accompagner pour permettre à ce que les uns les autres se retrouvent, et surtout les jeunes. Joseph Tizungu, nous allons prendre une courte pause musicale et revenir juste après pour la suite de cette émission Sport pour tous. On va parler Coupe du Monde avec la finale qui se joue, c'est déjà ce dimanche à partir des 21h, heure de Bukavu. La suite de cette émission Sport pour tous, les amis, ils sont toujours dans cette émission. Benjamin Sefou est toujours là. Benjamin, en forme pour parler Coupe du Monde, hein, je l'espère. Hein.
Oui.
J'espère que la nation que tu as soutenue tout au long de cette Coupe du Monde est encore en lice pour les derniers carrés.
Les nations.
Je pense que c'est une question ironique, président.
Moi, je me comprends, ils sont aux anges.
Comment il est en forme
parce que ma nation, on sait tous que c'était la RDC.
Nous tous, on sait qu'au-delà de la RDC, nous avions des nations que nous soutenions. La RDC, c'est tout à fait normal. Un temps congolais, on devrait être derrière la RDC, mais au-delà de la RDC, tu ne pensais pas que la RDC allait arriver en finale. Hein?
Après la RDC, j'ai commencé à soutenir plutôt des individus.
Pas des nations.
Pas des nations.
Et parmi lesquels
Oui, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Jude Bellingham.
Voilà, malheureusement, vous avez été déçus, hein, donc pour. Déçus parce qu'ils n'ont pas été en finale. Hein.
Je comprends malheureusement. Je pense que la question était ironique. Oui, malheureusement, on a été déçus, mais je suis globalement satisfait de la prestation de mes poulains durant cette compétition.
Individualité, merci beaucoup. Désiré est toujours là, Arka Tibonga est là, et Xossé est là, lui.
Aux anges, comme vous êtes. Un monde parfait, je me demande comment.
Les deux nations sont en finale aujourd'hui.
Mais normalement, personne n'y croyait. Je vous disais qu'il y aurait une finale des passations de pouvoir. Et là, j'ai parlé des Messi et la Lamine Yamal. Et aujourd'hui, on vient. Et voilà. Comme le plus derrière.
Voilà. Merci. On va donc parler tout à l'heure de la Coupe du Monde. Merci aux amis qui sont en train de nous suivre. Merci à Docteur Bienvenue, Mathia Bossoubi. Lui nous suit depuis Fréjus. En France, il est donc en train de suivre cette émission Sport pour tous. Merci également à Michel Mwanda-Bouezi qui nous suit également de quelque part. Tous ces bons mondes aiment cette émission Un sport pour tous. Alors, l'épilogue de la plus longue Coupe du Monde de l'histoire réunie. C'est dimanche, ce qui s'est fait de mieux sur la planète. L'Espagne, championne d'Europe, défie l'Argentine, championne d'Amérique du Sud, et tenante du titre mondial, une finale qui ressemble à une évidence. Séchons nos larmes, car même sans l'équipe de France, l'affiche vaut le détour. En même temps, après des 10 000 euros, les tickets moyens de ce dimanche pour une place au MetLife Stadium East Rockford, dans la banlieue de New York, pourvu qu'il y ait du spectacle. La finale de la Coupe du Monde 2026 réunit l'Espagne et l'Argentine, soit qui est fait de mieux sur la planète parce qu'elle oppose deux équipes qui ont dominé leur continent et parce qu'elle met en scène des destins qui se croisent, se répondent, se défient. L'Argentine a vécu un tournoi à son image intense, chaotique, vibrant, systématiquement bousculé parfois au bord du gouffre. Elle a avancé grâce à son orgueil et un homme qui refuse obstinément de vieillir. Lionel Messi, 39 ans, réalise un mondial irréel. 8 buts, 4 passes décisives, une influence totale. L'Albi Céleste a joué avec les feux mais n'a jamais brûlé. Poussé dans ses retranchements par les tournants calvaires, sauvé in extremis contre l'Égypte après avoir été mené début à zéro à la peine contre la Suisse avant de finalement plier l'Angleterre en demi-finale. Ainsi, l'Argentine n'a-t-elle jamais abordé la 90e minute d'un match en menant au score en phase éliminatoire. Et alors, à chaque fois, l'énorme caractère de cette équipe et la magie de son capitaine l'ont remise sur pied, poussée par une génération qui ne lâche jamais. Messi, encore lui, encore là, sûrement son dernier match en Coupe du Monde, peut-être un nouveau chapitre de son éternité. Les footballs adorent des mythes et celui-ci continue de s'écrire. Résultat, une deuxième finale du mondial consécutive, la troisième de la carrière de Lionel Messi, s'il vous plaît. À l'opposé, du tumulte argentin, l'Espagne avance réglée comme une horloge avec une sérénité implacable. Pas spectaculaire, mais terriblement efficace. Un seul but encaissé depuis le début du tournoi, jamais mené au score. Une capacité rare à contrôler les tempos, à étouffer l'adversaire, à imposer son rythme. L'Aurora coche toutes les cases de la maîtrise absolue. Longtemps critiqué après des passages compliqués en club, Rodri retrouve au fil de la compétition un niveau qu'on avait presque oublié, celui d'un ballon d'or. Reste un nom sur toutes les lèvres, Lamine Yamal. On l'attendait plus étincelant, plus décisif, à la hauteur de son statut de prodige. C'est peut-être injuste. Justement, le match qu'il lui fallait, à 19 ans à peine, il peut déjà s'offrir une Coupe du Monde, 2 ans après avoir remporté l'Euro le lendemain de son 17e anniversaire. Un potentiel doublé complètement fou pour un joueur qui a à peine passé la majorité. Tous les regards convergent désormais vers une finale qui oppose des styles, des générations, des façons de conquérir le monde. Ce soir, les rideaux vont tomber donc sur la plus longue Coupe du Monde jamais organisée. Après 103 matchs, il n'en reste qu'un seul. Celui qui vaut tous les autres sur la pelouse, une seule certitude entre les deux meilleures nations du moment, il n'y aura qu'un seul heureux. Qui sera le vainqueur ce soir entre l'Argentine et l'Espagne? Désiré.
Les deux.
Entre deux mots, on choisit le moindre. Si ça dépendait que de moi, je dirais l'Espagne. Et au-delà de ce qui peut dépendre de moi, l'Espagne a su montrer une bonne maîtrise de cette Coupe du Monde. L'Espagne également, un peu comme l'Argentine, portée par quelque chose d'extra terrain, extra air de jeu. Mais l'Espagne, façon dont les Espagnols, façon dont je joue face aux Français, je me dis que s'ils parvenaient à reproduire le même schéma et avec la même mentalité, ils peuvent remporter cette Coupe du Monde. L'Argentine également ne va pas dire son dernier mot. Ils ont tout ce qu'ils ont derrière et puis ils ont Messi, il faut les dire. Ils peuvent faire des choses et remporter une coupe du Monde. J'avais posé la question à Benji, nous sommes nombreux à répondre à cette question et nous sommes nombreux à éprouver un désintérêt pour cette finale. Au-delà de ce que nous sommes, analystes, journalistes, nous avons également des préférences et ce sont ces préférences qui nous font vibrer, qui font en sorte qu'on soit accroché à un match de football et c'est absent chez nous, en tout cas pour la plupart. C'est un peu comme le renard qui disait au petit prince qui mangeait pas du blé, du coup, qui mangeait pas du pain, du coup, le blé n'avait aucune importance pour lui. C'est dans la même logique. On ne mange pas Barça, on ne mange pas Espagne, on ne mange pas Argentine. Du coup, le blé n'a pas beaucoup d'importance pour nous.
Donc, pour ces matchs, pour vous, c'est les analystes ont parlé d'une opposition des styles. On connaît les styles espagnols. Les tiki-taka.
Sur ce terrain-là, on peut le faire, oui.
On vous prive du ballon pratiquement tout au long du match. Alors qu'à l'opposé, les Argentins, ils sont beaucoup plus physiques. Ils peuvent vous laisser la balle, mais après, sur un coup de génie, Lionel Messi et les autres, sur une contre, on les a vus revenir plusieurs fois. Même si on les voyait loin, difficulté. Il y a également le fait que c'est pratiquement une partie, une grande partie de la jeunesse face à l'expérience du côté argentin.
Les Argentins, je le disais avec Zosé hier, ils jouent comme le Congolais. Ils sont portés par la ferveur publique, cet enthousiasme. Ils se sentent redevables. Ils veulent tout donner à 200%.
Pour
Messi. Pas seulement pour Messi. C'est vrai, ils jouent pour Messi, ils les disent et tout ça, mais au-delà de Messi, ils sont vraiment redevables envers tous ces Argentins qui les accompagnent, qui célèbrent dans les rues de Buenos Aires et un peu partout au monde. Vous les sentez lorsqu'ils jouent, ils baissent pas. J'ai vu Messi baisser la tête. J'ai vu certains joueurs argentins baisser la tête. En 2014 par exemple, ou face au Bayern, vous sentez que c'est quelqu'un qui accepte la défaite, qui renonce à se battre. Contre l'Allemagne en 2014, contre le Bayern ou contre la Roma, les remontadas qui ont eu lieu, on voit Messi, bon, on sent qu'il a déjà accepté la défaite. Mais pour cette Coupe du Monde, c'est une autre version de Messi qu'on voit. Mené au score, mais il s'est dit on ne peut pas perdre, on ne peut pas se permettre de baisser la tête. Et tout le monde l'accompagne. On faisait un constat, on dit non, l'Argentine joue pour Messi, mais il faut dire la vérité, je l'ai avoué le samedi passé, contre l'Angleterre, surtout les 15 dernières minutes, c'est Messi qui a carrément joué pour l'Argentine. Il a également profité du sabotage de Thomas Tuchel, parce que Thomas Tuchel, comme disaient certains Anglais, à saboter son équipe. Il a fait une très mauvaise lecture du match. Et le latéral gauche, Spencer, qui jouait à la place de Messi, qui n'y était plus, qui a donné le maire de soi-même pendant 65 minutes, qui était crevé, il n'en pouvait plus. Et je crois, Messi, malin qu'il est, il a profité de ce couloir. Tous ses buts sont venus de ce couloir. Et l'entraîneur, juste après, il le remplace. Il aurait dû remplacer son latéral gauche avant que le pire n'arrive pour renforcer et se dire Messi peut faire quelque chose. Mais on a senti qu'un joueur diminué, presque blessé, il est sous le terrain. Et Messi en a profité, déjà dominé sur ce couloir droit et délivré deux caviars. Les Argentins ont eu un parcours plus facile, mais lorsqu'ils ont été droit au mur, lorsqu'il a fallu démontrer une certaine grandeur, ils l'ont quand même fait. Il fallait le faire face à l'Angleterre. Les critiques qui ont été là, certains disaient ce n'est plus une Coupe du Monde pour l'Argentine, c'est la CAN, bien évidemment, parce qu'ils ont enchaîné les équipes africaines.
Ils ont réussi à éliminer l'Angleterre qui a fini comme
ça. C'est ça, en fait. C'est ça le mérite maintenant qui revient à l'Argentine. Lorsqu'ils ont été devant un test, devant un grand défi, ils ont été droit au mur. Ils ont su réagir et ça, il faut féliciter. Les Espagnols ont eu un parcours similaire. Ils ont, face au Cap-Vert, ça n'a pas marché. Arabie Saoudite, le Paraguay, ça n'a pas été très très compliqué, même le parcours. Ils sont aidés par une déconcentration de la défense portugaise. Ils marquent ce but traditionnel. Ils sont aidés par une boulette du gardien de la Belgique. Ils arrivent jusque-là. Mais lorsqu'il fallait aborder pour moi la meilleure équipe de la compétition, la France, ils l'ont fait. Mais encore une fois, j'avais déjà parlé de Cherki. Il a fait une analyse, moi, qui m'a plu. Il a résumé tout le match. Les Français ont joué contre eux-mêmes. Ils se sont sabotés également eux-mêmes, ils se sont fait éliminer eux-mêmes. Et les Espagnols se retrouvent en finale. Et grâce à leur parcours, grâce à tout ce qu'ils ont, je crois qu'ils ont des éléments faire valables pour faire tomber.
Merci, merci Désiré pour ces analyses. Arcade, le match de ce soir, c'est la première fois que les Espagnols s'affrontent d'abord dans une finale, hein, comme ça, dans un match. C'est les champions quand même d'Europe à qui va affronter les champions d'Amérique. C'est qui donne encore beaucoup plus de saveur à cette rencontre. Hein.
Exactement, c'est une rencontre déjà qu'on attendait depuis la saison passée, parce qu'on parlait d'une finalissime qui n'a jamais eu lieu, qui a été délocalisée à maintes reprises. Et beaucoup de Zamorais du Ballon rêvaient voir cette confrontation, surtout entre Lamine Yamal et Lionel Messi, qui est considéré en quelque sorte comme son père spirituel dans cette discipline. Mais ça n'avait jamais arrivé, et ça arrive dans une compétition, dans la plus prestigieuse des compétitions mondiales, qui est la Coupe du Monde. Et puis après, ça arrive entre un joueur qui est sur le point de faire peut-être un back-to-back, et qui peut peut-être rêver encore du 9e ballon d'or en cas peut-être d'une sacre de l'Argentine ce soir. Et en face, il y a également un gamin de 19 ans. Ils sont rares les joueurs qui ont gagné cette compétition à 19 ans. Je pense qu'on peut les compter sur le bout des doigts. Les joueurs qui ont parvenu à gagner la Coupe du Monde à 19 ans. Lamine Yamal peut les faire après avoir gagné l'Euro, tel que vous l'avez d'ailleurs signifié dans l'intro, et la Ligue des Nations avec l'Espagne. C'est-à-dire qu'à 19 ans, il a la chance peut-être de finir, de tout gagner avec l'Espagne à 19 ans ce soir, s'il remportait cette Coupe du Monde. Mais ce qu'il faudra signaler, personnellement, je suis un peu départagé, mais je sais que ce que je peux dire, c'est que les meilleurs l'emportent sur le terrain. On l'a vu lors des affiches des demi-finales, que les meilleurs l'ont gagné face à, entre l'Espagne et la France. On a vu qu'en face, on avait une équipe de France, bien sûr, que tout le monde voyait déjà en finale ce soir. Je me rappelle Didier Deschamps le disait d'ailleurs avant même cette Coupe du Monde, qu'il est un peu agacé par le fait que tout le monde voit déjà l'équipe de France en finale les 19, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'en face il y avait une très bonne équipe espagnole en face, et je crois que les gens ont trop sous-estimé cette équipe, mais ne se sont pas rendus compte du parcours également qu'ils ont réalisé, parce que vous sortez quand même le Portugal en 8e de finale, vous sortez la Belgique en quart de finale. Et puis, vous vous heurtez contre la France en demi-finale. Et puis, quand on regarde cette armada offensive française, beaucoup de coachs ont souffert face à cette équipe. Ils n'ont pas su avoir la maîtrise de cette équipe française, surtout sur les plans offensifs. Mais ils ont su les faire, les Espagnols. Et on a vu qu'au-delà d'être conduits par... ils ne sont pas conduits par des superstars. Ils n'ont pas un joueur qui s'est déjà sublimé, sur qui ils comptent, mais ils ont un collectif. Ils ne jouent pas pour un individu, mais ils jouent tous ensemble. C'est ce qu'on a vu avec cette équipe espagnole. Et quand on regarde même la façon dont ils gagnent cette équipe française, on se rend compte qu'il n'y a pas de joueur qui se sublime, mais il y a un collectif uni. On a par exemple au milieu des terrains Rodri qui retrouve son meilleur niveau, bien sûr, contrairement à la saison antérieure ou à la saison dernière avec Manchester City.
Antérieure, c'est Ballon d'Or.
La saison dernière, qui vit également d'une grave blessure, il faut le signaler, mais qui a carrément retrouvé son meilleur niveau dans cette Coupe du Monde, accouplé au niveau actuel de Dani Olmo, qui est l'un des meilleurs numéro 10 de cette Coupe du Monde, peut-être derrière Bellingham. Et puis quand on regarde également en attaque, vous avez par exemple l'attaquant des pointes du 10e de la Liga espagnole qui est la Real Sociedad. Vous avez par exemple Baena qui n'est même pas titulaire à l'Atlético de Madrid.
Et il n'est pas titulaire dans la Roja normalement.
À gauche, il est titulaire depuis le début de la Coupe du Monde.
Williams, il n'est pas là.
C'est là que moi je me dis qu'il y a eu des choix forts. Il y a eu des choix forts.
Il a été blessé.
Il y a eu des choix forts qui ont quand même aidé l'Espagne à atteindre à ce niveau. Donc Luis de la Fuente s'est passé de certains joueurs pour miser sur les collectifs. Et c'est là que vous voyez par exemple les joueurs, il est déjà revenu de la blessure, par exemple comme Nico Williams qui a été titulaire indiscutable lors de l'Euro, être remplaçant dans cette équipe espagnole. Vous avez par exemple des joueurs comme Llorente qui est titulaire indiscutable avec l'Atlético Madrid qui est remplaçant au détriment de Pedro Porro qui est titulaire également avec Tottenham qui n'est pas de n'importe quoi. Donc bref, on a affaire ce soir à une équipe qui joue le tout pour le tout ensemble, qui est celle de l'Espagne, face à une équipe beaucoup plus athlétique et trop physique qui est l'Argentine. On l'a vu face à l'Angleterre. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce niveau. Et je le disais ici le dimanche passé, d'ailleurs, avec Expedi, que l'Argentine sera peut-être en difficulté face à cette équipe anglaise. Parce que quand on voit également la profondeur des bas qu'il y avait de ses côtés et tout, on se disait qu'ils étaient capables de mettre en difficulté les Argentins. Ça n'a pas été le cas. Mais il y a un seul homme qui nous a montré qu'on avait tort, c'est Lionel Messi. Parce que moi, je le disais, si Messi n'était pas argenté, pour moi, je donnerais directement cette équipe anglaise favorite face à l'Argentine. Mais malheureusement, quand vous avez dans une équipe un joueur comme Messi, c'est un joueur capable de décider lui-même sur le destin des matchs.
Mais dans ces matchs, vous enlevez un autre joueur va faire ce qu'il a fait.
Non,
si l'Angleterre joue comme ça.
Non, c'est qu'il fait face à l'Angleterre. Moi, je suis pas d'accord que si on enlève Messi, il y a un autre joueur qui peut faire ça. Parce qu'on parle quand même des passes décisives de Lionel Messi. Ouais. Et puis, il faut voir de quelle façon il les réalise. Les seconds buts, par exemple, il attire presque toute la défense là où il est. Ça permet à Lautaro Martinez de se retrouver dans la surface de réparation. Ouais. Et puis, quand on vous donne un ballon pareil. Tu es un renard de surface à la trempe de Lautaro. Je parie que même Désiré mettrait ses têtes.
Si Lautaro n'est pas là, aucun autre argentin ne met ses têtes là.
Il a presque.
Parce qu'il y a une passe de Messi qui est bien quantifiée.
Exactement. Il a presque tout fait pour ses adversaires, pour ses coéquipiers plutôt, pour les permettre d'être dans une bonne condition et de marquer. Et c'est ce que moi je disais quand vous avez. Ce soir, l'Espagne face à n'importe quelle équipe, face à n'importe quelle autre équipe dans cette Coupe du Monde, je prends l'Espagne favori. Mais le comble qui est en face, il y aura Lionel Messi.
Voilà, on va suivre cela. C'est vraiment un duel dans un duel parce que, au cas où vous ne le saviez pas, même l'entraîneur argentin Lionel Scolani a été en stage de formation à ce moment en Espagne. C'était sous la supervision d'encadrement de Luis de la Fuente. Et lui, aujourd'hui, entraîneur. Voilà, donc tout ce qui entoure. Ouais. Entoure cette finale exaucée, c'est aussi un match dans un match. On le disait, les hommes à suivre, Lionel Messi du côté argentin et Lamine Yamal du côté espagnol. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des joueurs qui ont retrouvé leur niveau dans cette compétition, que ce soit du côté argentin, que ce soit du côté espagnol.
Oui, effectivement. Hier, j'en parlais déjà avec Désiré qui parlait de Dani Olmo. Quand vous parlez des joueurs qui ont retrouvé leur niveau, Dani Olmo qui les retrouve également dans cette Coupe du Monde, on a senti que dès les débuts de la Coupe du Monde, Luis de la Fuente, il avait des idées claires, il avait des idées qu'il voulait mettre en place et certains joueurs étaient destinés à être titulaires. Malheureusement, ils ont peut-être déçu Luis de la Fuente et depuis là, il a changé directement ce que, à mon avis, il avait déjà prévu parce que avec la saison exceptionnelle de Marcos Llorente avec l'Atlético, je pense qu'il est venu dans cette équipe pour être titulaire. Malheureusement, contre le Cap-Vert, il ne donne pas les meilleurs de lui-même. Il a même tenté de trouver une place pour Gavi, que ce soit en attaque, mais que Gavi soit là. Malheureusement aussi, il n'a pas donné. Pedri, c'est vrai, il a été mis dans un rôle de numéro 10 dans cette équipe. Malheureusement, il n'a pas donné. On a senti que le meilleur niveau de Pedri, c'est lorsqu'il jouait dans un rôle beaucoup plus bas, soit des premiers ou des deuxièmes relanceurs. Malheureusement, quand il a été placé en numéro 10, ça n'a pas donné. Et puis, il a été peut-être contraint de le mettre sur le banc dans les deux matchs, les deux derniers matchs de l'Espagne. De l'autre côté, il y a une équipe de l'Argentine qui, voilà, c'est Messi. C'est Messi ou rien, tout le monde joue pour Messi. Je le disais dernièrement, il n'y a pas un fin tacticien sur le banc. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il parle à ses joueurs dans le vestiaire parce que lui-même, il l'a un jour dit. Je ne sais pas comment je peux dire à un joueur comme Lionel Messi, déplace-toi comme ça sur le terrain, déplace-toi comme ça. C'est pas parce que il respecte beaucoup Messi, mais c'est parce que lui-même, il est dépassé par les événements. L'équipe est forte que lui. Il n'a rien à dire parce que ce sont des gars qui sont là, qui jouent uniquement pour Messi, qui peuvent laisser leurs âmes sur le terrain pour Messi. Vous avez des hommes comme Paredes. Non, lui, là, c'est fort. Lui, c'est très fort.
Si c'était indéçable, t'allais pas dire ça, t'allais défendre.
Bon, pour Scaloni, je l'ai dit, parce que je l'ai suivi depuis son arrivée 2021. Il remporte la Copa América, et ça a toujours été le cas. tout le monde joue pour Messi. Mais attention, parce que depuis avant-hier que je ne comprends plus ce qui se passe avec cette Coupe du Monde. Vous allez vous rendre compte que c'est une prophétie. Malheureusement, on ne sait pas qui va remporter la finale aujourd'hui. Mais si on doit se fier à ce qu'on est en train de voir, je dirais l'Espagne. Apparemment, il y a des personnes qui se sont réunies depuis 2006 et qui prédisent les champions. Et ça a toujours été le cas. Ils ont prédit les champions 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Et ils ont prédit que cette année, ça allait être l'Espagne.
Il y a eu plusieurs versions. Hein.
Non, mais
c'est l'intelligence artificielle.
Voilà,
qui a prédit l'Espagne.
C'est pas l'intelligence artificielle. Si. C'était ces gens-là qui ont prédit les champions de 2006, 2010 et de toutes ces années-là. Donc, ils ont prédit l'Espagne. Après, tu as un Pedri, après l'élimination de l'Espagne, du Barça en Ligue des Champions, qui avait écrit sur son compte Instagram la date d'aujourd'hui. C'est pas un hasard. Après, il y a Lamine Yamal avant le début de la Coupe du Monde qui prend son maillot, le maillot de l'Espagne et le maillot de l'Argentine et qui les coule ensemble.
Attends un peu. Tu sais, on a posé la question à Yamal.
Ouais.
Tu sais ça, la réponse qu'il a répondu.
Uh-huh.
On avait dit ça pour Cristiano Ronaldo et puis Merino a marqué.
Oui,
à la sixième minute. Non, additionnelle.
Ce n'était pas la même question.
C'est dans ce sens.
Il a pris son maillot.
Pour qui ne croit pas.
Le maillot d'Argentine et le maillot d'Espagne, il les a collés ensemble. Il a pris les chiffres 1 du numéro 10 de Lionel Messi, il l'a placé pour le côté argentin. Et au côté espagnol, il a pris le chiffre 9 de son dossard 19. Il a placé là qui est la date d'aujourd'hui, qui est l'âge qu'il a aujourd'hui, les dossards qu'il porte, les dossards que Messi a porté. C'est de la prophétie et pour moi cette finale on ne peut pas prédire, mais je m'attends vraiment à un match où les deux joueurs ils vont briller. Lamine Yamal il n'a pas parlé hein, jusque là, et vous savez quand il ne parle pas il est beaucoup plus fort quand il ne parle pas, et pour l'instant personne n'a entendu parler Lamine Yamal. Donc
David Chadipiti,
je m'attends vraiment à un match où Messi va briller et Lamine Yamal sera en train de répondre, ou l'inverse dans ce match.
Merci, on va suivre tout cela des après, Benjamin, votre analyse de tous ces matchs, c'est quand même la finale. Hein, et dans les jargons footballistiques, on dit la finale, c'est gagne, mais ça ne se joue pas. Je vois que les gens tarissent des loges sur le jeu espagnol qui est beaucoup plus consacré sur la possession de balle. Et on fait fatiguer l'adversaire. Et après, il y a des attaques placées, on vous tape dans des petits carrés. À l'opposé, les Argentins, ils ont un jeu beaucoup plus direct. Ils commencent par construire par derrière, après ils se projettent et trouvent peut-être dans l'entrée-jeu Lionel Messi qui est pratiquement le distributeur des jeux du côté argentin. Et pour vous, l'opposition des styles qui paraît tactiquement fort entre De La Fuente et Scaloni.
D'abord, je dois signaler ici que j'ai été une fois de plus surpris par l'inculture et l'impertinence d'Exaucé lorsqu'il dit que sur le banc de l'Argentine il n'y a pas un tacticien, lorsqu'il dévalue les travaux que fait Lionel Scaloni. Mais pour moi, s'il faut trouver la pièce maîtresse de ses chefs-d'œuvre, pour moi c'est Lionel Scaloni. Il a su faire ce que tous les autres entraîneurs qui sont passés avant lui n'ont jamais su faire avec cette équipe d'Argentine. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un collectif qui sublime un individu, qui sublime tous les talents et qui met en lumière tous les potentiels de Lionel Messi en équipe nationale.
Parce qu'on a vu que depuis Lionel Scaloni est là, même si Messi ne brille pas, il y a d'autres joueurs qui sont là. Ça veut dire qu'il a su battre un collectif, non pas autour seulement de Lionel Messi, mais pour mettre en place une tactique. Chaque fois que Lionel Messi est très censuré, il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui
C'est exactement ce que j'entends dire. Donc, c'est déjà un collectif. L'Argentine, c'est d'abord un collectif. Et puis, dans ce collectif, il y a Lionel Messi. Lionel Messi, tous les autres se mettent au service de Lionel Messi. Tous les autres, tout est mis en place pour que Lionel Messi rayonne. Pour le moment, si l'Argentine est aussi impressionnante, parce que n'en déplaise à ceux qui pense que l'Argentine est arrivée là pour différentes raisons, Cuba, corruption. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'Argentine a mérité sa qualification jusqu'en finale. Et cette équipe, si elle est aussi impressionnante, vainqueur de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde 2022, vainqueur des jeux, je pense qu'ils ont remporté deux coupes.
Ils ont remporté back to back.
Ils ont remporté deux coupes. Et moi, je les vois bien remporter une fois de plus la Coupe du Monde aujourd'hui. Et pour moi, tout ça, c'est à mettre à l'actif de Lionel Scaloni. Parce que le travail qu'il est en train d'abattre avec cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Lorsque vous voyez cette équipe jouer, déjà physiquement, ils sont très forts. Physiquement, ils sont au point. C'est une équipe, ce n'est pas Scaloni.
C'est dans leur sang.
Justement, j'ai commencé par dire que j'étais vraiment surpris par ton inculture et ton impertinence et tu l'as éprouvé. Mais si.
Sa peine n'est pas être entraîneur, mais c'est lui qui met en place ça.
C'est
Scaloni qui imprime tout. Même le préparateur physique qui est là, c'est lui qui l'amène.
Même les plans d'entraînement, c'est lui qui les fait. En contraire, on a vu l'Angleterre qui avait un meilleur effectif. C'est lui de l'Argentine. Mais regardez la fin des matchs de l'Argentine. Regardez la gestion du match de l'Argentine. Ils ont perdu, mais à aucun moment ils ont douté. Regardez les changements de l'Argentine. Regardez la forme, regardez la fraîcheur. Et regardez cette assurance que cette équipe dégage. Pour moi, Scaloni, c'est vraiment l'homme fort de cette équipe de l'Argentine.
Moi, vous allez dire tout ce que vous allez dire, je comprends. Mais si je dois prendre parti, je prendrai parti pour exaucer d'une manière ou d'une autre. Déjà, lorsqu'on est nommé sélectionneur d'une équipe nationale, on n'est pas nul. Même quand je parle des Sables, j'ai jamais dit qu'il était nul. Il connaît, il a joué au football, il connaît des choses au football. Mais pas à ce niveau. Je suis d'accord que Scaloni, il profite de l'aura de Messi. Il peut tout construire, comme tout pourrait le faire autour de Messi.
Oui, mais c'est qui
si vous enlevez, écoutez, la différence.
Avant, ils n'ont pas su le
dire.
Tous, ils ont
échoué.
Je me rappelle que l'Argentine a joué, je crois, 4 finales de la Coupe. Ils ont perdu.
C'est ce que je suis en train de dire.
Ils ont perdu également finale.
Si vous passez, même si vous n'êtes pas meilleur, dans la vie, vous n'êtes pas obligé d'apprendre de vos propres erreurs. Vous pouvez apprendre également des erreurs d'autres.
C'est aussi à son
crédit. Et c'est ce qu'il a fait.
C'est aussi à son crédit.
Je suis.
Et ça prouve également sa grandeur.
Pour dire ceci. C'est pas un fin tacticien, c'est pas mettre un grand entraîneur mettre au Panthéon. On va pas mettre Scaloni au Panthéon. Je dis pas qu'il est nul.
Pourquoi
je vais pas le mettre en Panthéon.
Pourquoi on va pas le mettre en Panthéon?
Mais
les mérites.
Désiré, on est en train de parler d'une équipe d'Argentine. Il faut dire depuis que Scaloni est là, il faut voir les
bilans. Il est impressionnant.
Il a remporté la Copa. Deux fois.
Il a remporté la Coupe du Monde 2022.
Et vous savez, le credo, c'est quoi? Le credo, c'est quoi?
Oui, même si on a Messi. S'il vous plaît. Le Barça a traversé une période de vaches maigres avec Lionel Messi. Hein.
Ça existe.
La dernière fois que le Barça a remporté la Ligue des Champions, c'était en 2015.
Oui.
Messi était là. Après, Messi, quand Messi est parti, mais
Messi est resté 5 ans après.
5 ans après, ils n'ont jamais remporté. Donc ça veut dire on peut avoir le meilleur joueur de tous les temps dans une équipe, mais si on ne sait pas l'utiliser, et ça, c'est l'entraîneur.
On est tous d'accord sur ce point.
Et c'est ça qu'il ne m'a jamais dit.
Moi, je prends la parole.
Sur la réussite de l'Argentine aujourd'hui, on ne va pas dénier la langue
et personne ne va le faire.
Mais je dis l'architecte de ce qui arrive.
Il faut essayer de me comprendre. Je disais si je devais prendre parti, je prendrais plus parti pour exaucer par rapport à ce qu'il a dit.
Oui, mais on est en train de vous expliquer.
Parce que dans cette équipe, vous enlevez Messi. Vous l'enlevez Messi comme joueur, pas même son talent, juste son aura. Vous n'allez pas avoir la même motivation, le même mot que vous allez dire. Vous n'allez pas trouver la même facilité qu'il pouvait faire.
Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que... L'influence de Messi avant cette Coupe du Monde avec l'Argentine, ce n'est pas la même. Hein. Messi a traîné avant, vous n'avez pas demandé à Messi de faire des efforts défensifs aujourd'hui.
C'est un débat, permettez de l'expliquer.
Non, c'est ce que je t'ai dit. Vous n'allez pas lui demander de dire Messi à chaque fois de cocher comme il le faisait avec le Barça, lorsqu'il était au meilleur de sa forme.
Aujourd'hui, il marche sur les terrains.
Déjà, avec Messi, vous n'avez pas besoin de ça.
Oui,
et puis il y a tout un système pour compenser.
Ça, c'est l'entraîneur. Alors, il faut que l'entraîneur mette en place un système pour compenser tous ces déficits.
Justement.
C'est que le Real n'a pas vu faire avec Mbappé.
Les autres l'ont fait. Je comprends peut-être
qu'il est
chauveur. Il pose la question.
Il est allé finir
sur les deux. Il faut d'abord comprendre.
Oui, allez-y parce
qu'on a l'habitude de contredire sans comprendre, c'est et vrai. Du coup on avance dans le débat.
Parce que quand il nous dit que
je vous dis ceci, je vais me reprendre.
L'Argentine, c'est Lionel Messi.
De vous, c'est Messi. Ok.
la pierre angulaire de cette équipe argentine, ce Messi. Tout ce qui réussit dans cette Argentine, c'est grâce à Messi. C'est pas comme Messi joueur génie, c'est d'abord Messi pour ce qu'il représente. Ok. Il peut ne pas être à 100%. Mais déjà, il y a déjà McAllister, De Paul qui sont là, qui sont prêts à mourir pour lui. Ça veut dire...
Même Paredes.
Vous leur demandez de courir pour lui. Ils vont le faire. Ok. Ça peut être un coéquipier, un capitaine. Ça peut être Mascherano qui est dans le vestiaire, qui vous demande, on fait saisie pour Messi. On va le faire. Il n'est pas obligé d'être un grand entraîneur. Ok. Pour dire, pour faciliter Messi. Vous faites ceci, vous le faites. Vous avez aussi l'écosystème autour de Messi. On voulait que Messi remporte la Copa. Et pour le faire... On a tout fait. On a d'abord amené Scaloni. D'ailleurs, s'il est venu. Parce que lorsqu'on choisit un entraîneur, c'est sur base des convictions. On veut mettre Messi dans certaines dispositions. Quel est l'entraîneur qui est capable de le mettre dans des dispositions? Qui est capable de se plier à ses exigences? C'est Scaloni qui était disponible. On le prend. Les joueurs qui peuvent le faire. Vous allez voir que même dans cette équipe argentine, lorsque quelqu'un n'est pas en odeur de sainteté avec Messi, on l'enlève dans l'équipe parce qu'on ne veut pas énerver Messi. On veut conserver Messi dans tous les sens, que ce soit émotionnel, que ce soit physique.
C'est normal pour un joueur comme Messi.
Voilà. Donc, la réussite, moi-même, je peux le faire. Je peux le faire avec mes compétences et je vais arriver presque à un résultat pareil.
Mais finalement,
pour dire que celui qui est là, c'est pas
finalement, s'il vous plaît. Mais finalement, là, on dit la même chose, mais en des termes différents. Mm-hmm. Et c'est ce que Benjamin disait. Tout entraîneur qui arrive dans la sélection argentine, il sait que j'ai
nous débattons tout de quoi?
J'ai les meilleurs joueurs du...
Il sait que j'ai pas un fin.
S'il vous plaît. Il sait que je mets ma tactique autour de Lionel Messi. Voilà. Oui. Vous l'avez dit.
Oui.
On sait que Messi, c'est le génie. Il peut transformer. Donc, il peut lui-même changer les cours de match à n'importe quel moment. Mais là encore, il faut mettre les autres dans le système, oui. Oui. Ils peuvent aider Messi à atteindre cet objectif, d'accord, à être encore beaucoup plus fort. Oui. Même à 39 ans aujourd'hui.
Et pour ce fait.
Oui, parce que Cristiano, 41 ans, c'est pas qu'il était nul, mais Cristiano, 41 ans aujourd'hui, on a senti qu'à certains niveaux, ça ne marchait pas. Que l'entraîneur.
Le Portugal,
vous savez ce qui n'a pas marché avec Cristiano?
C'est ça que j'ai dit. C'est ça qu'on dit. C'est pratiquement le même scénario avec Messi. Cristiano n'est pas dans un scénario où il peut éteindre son talent dans l'équipe nationale du Portugal. Et c'est pourquoi le Portugal n'arrivait plus à.
Il n'y a pas d'écosystème autour de Cristiano.
C'est ça. Et voilà. Ça, c'est l'entraîneur.
C'est l'entraîneur.
Martinez a été critiqué. Même les joueurs l'ont critiqué. Martinez a été critiqué partout, même par les légendes de l'équipe du Portugal. Ils ont critiqué les Figo et les autres pour dire que non, oui, vous dites que Cristiano, il n'est pas en forme. Mais mettez-le dans les conditions. Il peut aider l'équipe du Portugal.
Ça veut dire ceci.
L'entraîneur, tout d'abord.
Il n'a pas su l'entraîneur.
C'est l'entraîneur, il
le fait. Aujourd'hui, des joueurs comme Vitinha, ils sont sortis comme des joueurs qui n'ont pas de
joueurs lambda,
qui n'ont pas de niveau.
Ils sont sabotés.
Pourtant, c'est ce qu'on dit. C'est parce que l'entraîneur n'a pas mis en place un système, une tactique pour permettre à ces joueurs de jouer pour
Cristiano.
Quand il est venu, on est en train de mettre en lumière les parce que vous avez dit d'ailleurs que si l'Angleterre a échoué parce que l'Angleterre n'a pas pu se qualifier face à la
Russie, parce que Tourelle est là,
parce
que Scaloni
a fait, on est d'accord avec
l'entrée des Rodrigo de Paul,
on est d'accord avec vous hier que la France a fait une très très mauvaise première mi-temps. C'était grâce à Didier Deschamps. Les 11 concoctés par Didier Deschamps, c'était raté.
On ne doit pas se contredire. Pour laquelle nous faisons ce débat.
S'il vous plaît.
Je dis, je prenais parti.
Oui.
Et nous, on est qui débattait.
Et nous, on est
pas dans la globale. On n'est pas dans les analyses globales.
Non, parce que vous avez.
On ne se contredit pas.
Parce que toi et José, vous avez tendance à minimiser la
travail.
Et nous, nous sommes en train de vous donner les arguments.
S'il vous plaît.
Nous sommes en train de vous donner des arguments par rapport au fait que Scaloni est l'un des architectes de la réussite de l'Argentine depuis qu'il a pris les rênes. Oui, parce qu'avant lui, il y a des entraîneurs qui ont passé.
Et Messi était encore plus frais, il était encore plus jeune,
il était à son
prime. Comment je vais parler? Voilà, effectivement. Je vais avancer dans mes
Allez-y.
Voilà, j'ai soulevé cet aspect, donc je vais essayer de me défendre un tout petit peu. Vous avez parlé des entraîneurs qui sont passés par là, mais qui sont-ils? Quand vous prenez Maradona, en tant que joueur, c'est un phénomène, mais en tant qu'entraîneur.
Et puis il y a un contraire pour Maradona, on a dit qu'il faisait tout pour que Messi ne puisse pas briller, ça aussi.
Non, pas briller l'histoire.
Oui, ça a été dit.
On s'arrête à l'aspect d'entraîneur. Voilà, Maradona est un phénomène en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, son niveau était à remettre en question. Il y a Sampaoli. avec sa Coupe du Monde catastrophique en 2018.
Oui, mais là, Sampaoli venait de faire, de, je crois, j'ai remporté, je crois, deux coupes avec le Chili.
Le Chili.
Voilà.
Il a même battu l'Argentine.
Il a même battu l'Argentine en finale.
Voilà. Voilà. Là, on ne s'est rendu pas encore compte de ce que Messi représentait peut-être pour l'Argentine. Mais actuellement, regardez même.
Comment ça, parce que en 2014, hein, oui. Il était en finale de la Coupe du Monde avec.
Et qui était. Mais il fait une finale catastrophique.
Oui, mais il a une note de 3%. Mais il était meilleur joueur de la compétition. Meilleur buteur.
Tout le monde est d'accord. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Écoutez, tout le monde est d'accord. À part ceux qui ont attribué ce prix, que le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est Arjen Robben.
Quittons pas le débat, on parle de Scaloni.
Tout le monde, c'est un débat qui n'existe même pas. En 2014, le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014,
oui,
c'est Robben.
Regarde en 2022, lorsque l'Argentine vient jouer la Coupe du Monde. Les joueurs viennent.
L'Argentine remporte la Coupe du Monde.
Ok. Non, j'ai dit d'abord, quand ils viennent jouer la Coupe du Monde, ils savent que, parce que ça s'est chuchoté que c'était la dernière, ça serait la dernière Coupe du Monde des Messi. Et il arrive, c'est tout le joueur qui se dit, Messi c'est une légende pour notre pays. Il a juste gagné la Coupe parce que ça venait de remporter la Coupe en 2022. On s'est dit, bon, la Coupe du Monde, on peut lui offrir aussi. Et après, vous avez cette chanson qui arrive en Argentine, Por la Ultima de Leo. Donc vous comprenez que c'est tout le monde qui a adopté ça dans le vestiaire à chaque fois que l'équipe gagne. Même si c'est Fernandez qui a marqué, même si c'est Depaul qui a marqué, c'est Messi qui est toujours soulevé. Regardez contre l'Égypte et contre... dernièrement contre l'Angleterre.
Tu te casses la cervelle pour rien.
Le match est terminé, c'est Messi qu'on vient prendre. Pour vous dire que Scaloni, pour moi en tout cas, Scaloni, c'est pas vraiment cet homme de la situation. Il est là parce que il y a certains ces joueurs là qui sont là, ils se sont dit
et on l'a ramené pour ça.
Voilà, on peut jouer pour Messi. On va tout faire pour Messi. Ils le disent eux-mêmes.
Mais exaucé. Tu me surprends quand tu analyses comme ça. Ça ne peut pas venir de toi. Ça ne peut pas venir de toi. Parce que si à contrario on donnait à Scaloni l'équipe nationale du Portugal et que le Portugal rapporte la Coupe du Monde, on va dire quoi? C'est l'entraîneur, non? Parce que le Portugal a un joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, qui est Cristiano Ronaldo, avec l'un des meilleurs effectifs de cette Coupe du Monde. Voilà. Parce que si vous prenez les 11 concoctés par le Portugal,
c'est ce qu'il y a de mieux.
Il y a même ceux qui venaient de remporter la Ligue des Champions avec leurs clubs respectifs, les championnats et tout ce qui va avec.
C'est moi qui
donne la parole. Il faut éviter de prendre la parole à toi et à travers. Je vais vous donner la parole. Ça veut dire, Martinez a été critiqué parce qu'il n'a pas su mettre en place une tactique pour permettre à Cristiano de briller dans cette Coupe du Monde et d'aider peut-être le Portugal. La conséquence, c'est que le Portugal a été moribond, même dans les Jeux, dans cette Coupe du Monde. Ça veut dire que Scaloni arrive parce que l'Argentine avait déjà peiné à remporter un titre. Et d'ailleurs, Lionel Messi avait déjà menacé, parce qu'il a dit ouvertement qu'il quittait l'équipe nationale. Il a fallu que la fédération réfléchisse sur l'entraîneur qui peut mettre.
Ce qu'on est en train de dire,
c'est ça que j'ai dit. L'entraîneur qui peut mettre Lionel Messi dans de très bonnes conditions pour aider l'Argentine. Et ça, c'est à mettre au crédit de Scaloni, parce que c'est lui qui arrive avec une tactique qui met en place et que l'Argentine commence à gagner. Le résultat, deux Copas de suite et une Coupe du Monde. Bon, ça, c'est pas donné à n'importe qui.
On va conclure. Je trouve dire quand même, c'est pas parce que vous détestez un homme,
c'est pas pour le
détester, que vous devez dire tout ça sur sa personne. Vous parlez d'un entraîneur qui parvient à faire un back-to-back en finale d'une Coupe du Monde. Si je vous demande de me citer les entraîneurs qui l'ont fait, ils ne sont pas nombreux. Même Didier Deschamps qui l'a réalisé. Mais il est en finale encore une fois.
En
finale, bien sûr. Même Didier Deschamps qui l'a fait, il a été critiqué après avoir passé à côté tactiquement des matchs. Après avoir passé sur les plats tactiques. Il est passé complètement à côté de son match. Quand vous regardez par exemple la France, l'Argentine n'a pas l'effectif de la France. Si on se base sur les plats effectifs, l'Argentine n'a pas cet effectif de la France. Mais quand on regarde actuellement, j'ai compris, vous n'avez pas suivi l'Argentine-Suisse. J'ai parié que parmi vous n'avez pas suivi peut-être l'Argentine-Suisse.
Non, le but exceptionnel d'Alvarez.
Vous dites que tout ce que réalise l'Argentine aujourd'hui, c'est Lionel Messi. Mais à un moment donné, Lionel Messi est passé à côté de ce match. Et vous savez qui est venu débloquer la situation. La situation a été débloquée par d'autres joueurs, notamment à Alvarez, dans les Money Time, et encore une fois, je pense Enzo
Fernandez. Je veux compléter. Scaloni est l'un des sélectionneurs les plus titrés de l'histoire du football argentin. Carrière des joueurs. D'abord, Scaloni a d'abord porté le maillot de l'Albi Céleste en tant que joueur remportant la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 97. Il a ensuite connu les sélections avec l'équipe A, participant notamment à la Coupe du Monde en 2006 avec en Allemagne, élimination en quart de finale. Alors, nommé sélectionneur intérimaire en août 2018, après l'échec de la Coupe du Monde en Russie, il s'est ensuite vu confier les postes de manière permanente. Il a bâti une équipe soudée autour de Lionel Messi, devenant le sélectionneur le plus victorieux de l'Argentine avec un palmarès exceptionnel. Copa América en 2021-2024, finalissime à Common Ball UEFA en 2022, Coupe du Monde de la FIFA en 2022 au Qatar. Voilà, ça c'est.
Et il est encore une fois en finale en 2026. C'est des mauvaises fois de la part d'Exaucé, soutenu par son grand frère Désiré, de dire ici qu'il y a un entraîneur qui a fait un back-to-back en finale d'une Coupe du Monde, qui a gagné deux fois la Copa América, et avant lui, l'Argentine a perdu, je pense, quatre finales. Et Lionel Messi a même pris sa retraite avant qu'il revienne encore une fois. Et aujourd'hui, vous prenez cet entraîneur. Héritier vous a donné un exemple ici concret. Les Portugais, sur le plan effectif, c'était l'un des meilleurs effectifs.
Même si on ne prend pas le Portugal, prenons l'exemple du Paris Saint-Germain.
Nous partons d'un exemple.
Depuis l'arrivée de Luis Enrique. Parce que le Paris Saint-Germain a tout fait et n'avait jamais remporté la Ligue des Champions. Avec tout ce qu'il y avait comme armada des stars, on a amené n'importe quel joueur, n'importe quel entraîneur. Ils ont amené l'entraîneur Gaston Villa, Unai Emery, ils ont emporté Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est même arrivé en finale de la Ligue des Champions. Mais il fallait qu'on amène Luis Enrique. Et c'est Luis Enrique qui est venu. Il a pris d'abord la première grande décision, c'est de laisser partir Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'il a demandé la direction.
Mbappé voulait partir.
Oui, Mbappé voulait partir. Oui, parce qu'à des reprises, on n'a pas chassé. Je n'ai pas dit qu'on l'a chassé. Voilà. J'ai dit qu'il était d'accord qu'il parte. Parce qu'il a dit mieux vaut qu'il parte et que je reste avec un collectif qui peut m'aider à remporter des titres. Et quel est le résultat aujourd'hui? Deux Ligues des Champions d'affilée. Ça veut dire.
Même sans Mbappé.
Qui peut dénier aujourd'hui que c'est la patte de Luis Enrique qui met le Paris Saint-Germain là où il est aujourd'hui?
On peut avoir débat sur ça.
Ouais.
Parce que lorsque Luis Enrique. Je suivais récemment la vidéo d'Eriolo qu'il a faite à l'arrivée de Luis Enrique et comment les choses ont changé. Mais nous sommes en train de parler de l'entraîneur. Moi, je vous parle de ces Scaloni. La façon dont moi, je suis en train de l'aborder. Les mêmes Scaloni, vous les nommez à la tête du Costa Rica et qui nous amène en quart de finale avec le même effectif, avec sa tactique et tout ça. C'est un entraîneur. Moi, je dis, bon, c'est un entraîneur.
Même au Brésil, il ne fait pas.
Non, je dis Costa Rica, par exemple. Costa Rica, vous nous amenez en 16e de finale avec du jeu, avec votre impact. On sent qu'il n'y a pas des stars dans cette équipe du Costa Rica, mais c'est l'entraîneur, la star. Mourinho l'a fait avec Porto. On l'a vanté. On pensait qu'il ne pouvait pas le faire avec Niter, mais il l'a fait. S'il se vante lui-même qu'il est un grand entraîneur, qu'il est des special ones, c'est grâce à ce qu'il a fait avec une équipe où personne n'attendait. En fait, il n'y avait rien qui présageait qu'on puisse arriver à ce niveau. C'est comme ça que moi, je cote un entraîneur. Mais lorsque vous.
C'est que Pep Guardiola n'est pas un grand entraîneur.
C'est un grand entraîneur.
Oui, dans votre analyse.
Il a fait. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais mis devant Mourinho, mais c'est un grand entraîneur. J'ai une façon d'analyser. Et c'est comme ça que j'analyse. C'est notre débat. Il ne faut pas mélanger un débat dans un autre débat. Alors, Scaloni, déjà, il est intérimaire. Mais on sent, parce que Messi à la retraite, vous êtes en train de le dire. On fait tout pour ramener. Même Cristiano l'a dit. Je suivais la déclaration d'Agüero. Il dit non, moi, je ne déteste pas Cristiano parce que je me rappelle la dernière conversation qu'on a eue avec lui. Il a dit non. Un joueur comme Messi, avec la carrière qu'il a faite, il mérite quand même une Coupe du Monde à la fin. Tout le monde est convaincu. On pensait la même chose pour Cristiano. La fédération est convaincue. Le monde, même la Conmebol est convaincue que Messi doit gagner quelque chose. On fait une copa pour permettre à Messi de faire quelque chose. Le co-système...
Mais
Mais je suis en train de vous dire de fait.
J'espère que la technique n'a pas laissé passer ça.
Non, je suis en train de les dire parce que tout ce que j'ai dit, ça a été dit aux médias. Écoutez, j'ai été dit aux médias internationaux, c'est pas ici.
On a donné à l'Argentine, c'était Copa América.
J'ai dit donné.
Vous avez dit que tout était fait.
On sait tout ce qu'il y a.
Donc toi, c'est de ceux-là qui disent que bon, on a comporté le calendrier de la Coupe du Monde.
Non. Je ne serai pas le seul à le dire.
Non.
Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit.
Écoutez,
je suis pas en train de quitter le débat. Je suis en train de je m'assume.
S'il te plaît.
Non. Moi, je suis de médias sérieux.
S'il vous plaît, Désiré Sport, pour tous, c'est quand même une grande émission.
Je ne suis pas quelqu'un de TikTok, ouais.
Non, c'est quand même une grande émission. Il faut éviter des commentaires qui peuvent... Non, il ne faut pas quand même commenter comme... Toi, tu es quand même journaliste.
Je l'ai dit.
Les commentaires que tu donnes devraient inspirer ceux qui nous suivent parce qu'ils savent...
Et je dois mentir pour inspirer les gens?
Non, s'il vous plaît.
Parce que Rémi Monod a dit qu'il a...
On ne te demande pas de mentir, mais tu n'as pas été là lorsqu'on a fait, on a fait le tirage au sort pour dire qu'on savait que l'Argentine allait affronter l'Égypte, allait affronter l'Algérie, allait affronter... Non.
On a eu un débat.
Je veux conclure par là. Ça, c'est un débat de la rue.
C'est pas un débat de la rue. Moi, j'écoute les médias internationaux. Écoutez, j'écoute les débats internationaux sur des chaînes internationaux, des gens qualifiés, et on fait le même débat.
Avec tout le respect que je vous dois, on va avancer. Je ne peux pas permettre. Je peux pas permettre que vous. Qu'on continue comme ça.
Alors,
dans mon émission,
d'accord,
on analyse le fait qu'une équipe a été. Non,
écoute,
non.
Écoute alors ce que j'ai en train de dire.
C'est un débat des réseaux sociaux.
Nous savons.
Ouais. Limitons-nous à ce que nous avons vu.
Alors, on continue sur le terrain. On continue parce qu'on parlait de Scaloni
et
je parle de l'écosystème.
Ouais.
Vous pouvez le contester ou pas. C'est pas le seul à le dire. Et je sais pas, moi, ça vient pas de demander. C'est pas une chose que j'invente. Ok. Il y a un écosystème depuis la Combol jusqu'à la FIFA. Parce que même aujourd'hui, les journalistes bien qualifiés les disent Infantino.
Non, là, vous profitez pour.
Oui, j'en profite aussi. J'en profite. Je peux parler de CR7. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a un écosystème qui a été mis avant que Messi gagne la première Copa pour que Messi puisse gagner quelque chose avant la fin de sa carrière. Et Scaloni en fait partie. Le fait de nommer Scaloni à la tête argentine, ça fait partie des favoris. On est dans les favoritismes.
Alors, en principe, une finale oppose deux équipes. Celle-ci opposera aussi deux époques. Depuis près de 20 ans, le football n'a connu qu'un seul roi. D'accord, deux pour les plus irréductibles, mais voilà qu'émerge Lamine Yamal. 19 ans déjà installé dans cette rare catégorie de joueurs capables de redessiner les contours de ce sport. Son chemin croise évidemment celui de Lionel Messi sous la plus grande scène qui soit, une finale de la Coupe du Monde d'Espagne-Argentine. Évidemment, les duels entre les deux meilleures nations du moment, sans doute, mais l'enjeu dépasse le simple résultat. Un choc générationnel, un règne qui touche à sa fin face à celui qui commence. Il y a donc cette photo que tout le monde a ressortie ces derniers jours, 19 ans après cet improbable cliché réalisé pour l'UNICEF où Lionel Messi donne son bain à un nourrisson répondant au nom de Lamine Yamal. Les deux protagonistes se retrouvent face à face pour le plus grand trophée que le football puisse mettre en jeu. Quel sens de la remise en scène les mettre contre l'héritier annoncé? Les scripts n'en est que des trop beaux et les parallèles fascinants. Tous deux sont des enfants du FC Barcelone. En tout cas, tous deux, ils sont des enfants du FC Barcelone, mais tous les opposent aujourd'hui. Messi et Yamal sont deux chapitres d'un même livre. Deux incarnations d'un club qui a fait du jeu une philosophie. L'Argentin est le fondateur d'un idéal. Celui qui a transformé les clubs Lorgana en empire et réinventé l'adoration du culte sportif en son pays. Et l'Espagnol est le prophète qui reprend la langue en voulant narrer sa propre épopée. Le Barça n'est pas dans cette finale, mais cette finale est intimement barcelonaise. Les duels portent ainsi une question qui brille. Messi va-t-il passer les pouvoirs ou va-t-il une dernière fois tout absorber? Yamal incarne la relève et Messi l'exception. Et cette exception-là refuse de s'éclipser. Les jeunes peuvent devenir champions du monde à 19 ans et 6 jours. Les vieux peuvent devenir double champion du monde à 39 piges. Ce n'est qu'un match. Pas qu'une finale, c'est un combat générationnel entre l'avenir et le passé. Sur le terrain, l'un et l'autre ont vécu deux mondiaux presque opposés. Messi a livré une compétition démentielle. 8 buts, 4 passes décisives, un rayonnement total sur chacun de ces 7 matchs de l'Argentine, avec un rôle moteur pour sortir la Libye céleste de l'entourloupe cap-verdienne, 3 buts à 2 après prolongation en 16e de finale. Du piège égyptien, 3 buts à 2 en 8e de finale et l'écueil anglais 2 buts à 1 en demi. Match à chaque fois arraché dans les money time. Le genre détourne tournoi qui réfère une légende en beauté plutôt qu'il l'entame. Chaque tour ou presque a rappelé, même aux plus réfractaires, ce qui s'impose comme une évidence, celui qui est le plus grand, le plus fort. À l'inverse, le tournoi de Yamal paraît presque discret, non parce qu'il déçoit dans l'absolu, mais parce que les attentes sont devenues absurdes. On juge désormais ses performances à l'aune de l'extraordinaire. Le moindre match simplement très bon semble presque banal, et pourtant, il est toujours là. Toujours capable d'un geste impossible ou à l'accélération qui change tout, comme les très grands, comme Messi en fait. C'est lui qui l'a vu nu à 19 ans plus tôt et qui rêve rhabiller celui qu'on présente comme son successeur. Cette finale était finalement une évidence, car le destin adore fermer les bouches. Et celle-ci est parfaite. Alors, on va suivre également ces duels entre Lamine et Lionel Messi. Mais hier, il y a une petite finale, on va en parler un peu avant de clôturer. Il y a une petite finale entre la France et l'Angleterre. Méritée pour toi, une minute. La troisième place de l'Angleterre.
Ben déjà, il n'y avait pas vraiment un intérêt particulier pour des côtés à pouvoir disputer ces matchs parce que ce sont quand même deux équipes qu'on voyait en finale peut-être pour dans cette compétition. Et puis voilà, la France qui a été, je crois, déçue après l'élimination contre l'Espagne. On ne s'y attendait vraiment pas, et l'ambition de la France avec cette équipe des rêves, c'était quand même de pouvoir arriver en finale. Et après cette élimination, je pense ces matchs des troisième place n'est plus assez. Vous allez voir même que Deschamps, il a tourné son effectif, donné du temps déjà à Cherki, Zaïre Emery, qui n'avait pas joué assez de minutes dans cette Coupe du Monde. Même chose pour l'Angleterre. Déjà, il y a Tourelle, après le match contre l'Argentine, qui déclare que personne n'a envie de jouer le match de la troisième place. Lui aussi, il fait une importante rotation. Donc, au départ, c'était un match où on ne pouvait pas accorder un intérêt particulier. Mais après, on voit que la France fait une première mi-temps chaotique, catastrophique, tout ce que vous voulez, parce que c'est 4-0. Avant la mi-temps, je n'avais pas vu ça depuis Barcelone Atlético de Madrid. 4-0 en première mi-temps, c'est vraiment exceptionnel. Ça a prouvé combien de fois la France était vraiment, vraiment en dessous. Et puis, c'était pour une dernière des Didier Deschamps. Il y a certains Français qui essayent de se consoler en disant que non, les Français, ils sont revenus après, mais ils vont perdre les matchs parce que beaucoup de personnes retiennent beaucoup plus cette première mi-temps que l'ensemble du match. Donc ça a été très ridicule pour cette première mi-temps, mais après, voilà, ils se sont mis sur, ils ont compté sur leur buteur maison Kylian Mbappé, que c'est doublé. Et après, voilà, l'Angleterre qui remporte ces matchs des troisième place. Je n'attendais pas franchement la France 4e dans cette Coupe du Monde, mais vraiment, c'est le football, ce sont les surprises.
Voilà, la France vous a surpris négativement?
Négativement, oui, mais pas du tout, parce que moi, je savais que la France est conduite par un joueur qui ne marque que dans des matchs presque inutiles. Quand il fallait mettre peut-être un doublé contre l'Irak avec des joueurs qui jouent en deuxième division Ouzbékistan, qui sont des cultivateurs les week-ends et qui ne jouent que les mercredis, Mbappé a répondu présent. Quand il fallait sortir une masterclass face au Maroc, il a répondu présent. Quand il fallait être un grand Mobutu face au Paraguay, il a répondu présent. Okay. Mais il fallait un match important face par exemple à l'Espagne pour disparaître. Et vous allez vous rendre compte que c'était le cas même dans des grands matchs avec le Real Madrid. On se rappelle, il réalise une saison stratosphérique, mais il fallait affronter Arsenal en demi-finale. Je parle par exemple de la saison antérieure pour disparaître. Bref, pour moi, c'est un joueur qui peut briller face à toutes les équipes, à la VES, à Girona, je ne sais pas moi, à des équipes de bas de tableau.
Mais quand il faut être face
dans des matchs importants, quand il faut être dans des matchs qui peuvent faire gagner un titre, ou qui peuvent basculer vers peut-être une finale, ou qui peut carrément faire gagner l'ensemble de l'équipe, c'est là qu'il disparaît.
Quand on fait un triplé au Barça, c'est pas un match important.
Pour gagner quoi à la fin?
Face à Cécile,
en finale,
pour finir une saison blanche.
Quand on fait un triplé face à l'Argentine et qu'au jour de l'histoire, on l'a fait.
On avait affaire à une équipe de France, pour moi, qui nous a sublimé, bien sûr, sur le plan spectacle, ce qui est normal, parce que vous avez ces quatre devants. Mais je savais que c'est une équipe qui n'avait pas, en quelque sorte, malgré l'expérience qu'incarnait Didier Deschamps sur le bas des touches. Je savais que c'est une équipe qui aura de sérieux problèmes quand ils seront face à des gros dans cette compétition. Et vous avez parlé de l'Espagne, vous avez trop parlé de l'Argentine qui a joué face à des petites équipes. Mais je ne me rappelle pas, à part, d'ailleurs c'était un match sans enjeu, à part la Norvège,
l'équipe de France a joué face à quelle grande équipe dans cette Coupe du Monde?
Mais le Sénégal, c'est pas une petite équipe.
Ah, vous parlez du Maroc, vous parlez du Sénégal.
Le Sénégal, c'est pas une petite équipe.
Ce ne sont même pas des équipes des top 10 mondiales. Les Maroc, bien sûr, mais quand on regarde également les Maroc qu'ils affrontent en quart de finale, ouais. N'importe quelle équipe aimerait se taper les Maroc à cette étape de la compétition.
N'importe quelle équipe comme.
Vous avez affaire à une équipe de France pour moi.
Comme l'Ouzbékistan.
Énormément
déçu.
Pourquoi? À l'image également de son effectif, de son leader qui est
comme la Jordanie,
qui s'est marqué dans des matchs presque inutiles qui ne vaut même pas la peine, parce qu'on l'a vu encore une fois lors de cette petite finale. Même quand la France est menée de 0, Mbappé sourit. Pourquoi? Parce que lui voulait à tout prix marquer. Et tant qu'il n'a pas encore marqué, il n'est pas satisfait. Voilà. C'est là que moi je me dis que. Pour moi, un grand joueur.
Parce qu'on a mis des informations qu'on peut prouver.
S'il vous plaît.
Vous balayez.
Vous dites qu'il y a des informations qu'on peut prouver. S'il vous plaît. Laissez-le finir. Je vais vous donner la parole.
Depuis que j'ai pris la parole, il parle. On dirait que
vous avez donné la parole. Allez-y. Finissez parce qu'on va.
Exactement. Pour moi, je me dis qu'on a. On a affaire à une équipe qui conduit bien sûr
offensivement. Oui, mais il faut pas aussi dire que les buts d'Mbappé étaient inutiles, parce que ce sont des buts qui ont permis à la France d'aller loin dans cette compétition. Même si on marque contre l'Ouzbékistan, et le but qu'on marque contre l'Angleterre, c'est pratiquement
c'est la même valeur, c'est une étape de la compétition.
Je n'en discute pas. Parce que c'est lui-là que Mbappé a marqué pour la France, ont permis à la France d'aller loin dans cette compétition.
Exactement. Mais c'est ça que je disais également. Mbappé, c'est quelqu'un qui s'est marqué dans des matchs presque inutiles.
Oui, mais
je l'ai suivi avec
le Real Madrid.
Il a marqué dans des matchs où les Real n'avaient même pas besoin que ce soit lui qui marque pour le Real.
Donc,
même avec l'équipe de France.
Même pour le Real.
Revenons maintenant.
Si le Real ne veut pas remporter les championnats, au besoin que le Real soit qualifié en Ligue des Champions, et si c'est sont les buts d'Mbappé qui peuvent permettre au Real de se qualifier en Ligue des Champions, ce sont les buts valables. Mbappé a été meilleur buteur de la Liga, il a été meilleur buteur, je crois, de la Ligue des Champions.
Et il est proche d'être meilleur buteur.
Il est proche d'être meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Il est meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Ça veut dire qu'en attendant, peut-être que la finale,
c'est deux fois d'affilée.
Mais présentement, c'est lui le meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Mais
de l'histoire de la Coupe du Monde, sur le plan individuel. La saison de Mbappé a été plus que réussie.
Sur le plan individuel.
Et si la France remporte la Coupe du Monde,
et si la France remportait la Coupe du Monde, il est ballon d'or. Il est ballon d'or. Même si vous ne l'aimez pas, mais c'est comme ça.
Il y a Dembélé qui a
gagné. Oui, parce que le ballon d'or, oui,
il est.
Oui, mais il est en course avec Dembélé.
D'accord.
Sur le plan individuel, il a été plus fort que Dembélé sur toute la saison.
Je n'en disconviens pas, mais ce qui est normal.
Parce que Dembélé, cette saison, il était beaucoup plus dans les collectifs du Paris Saint-Germain. Sur le plan individuel, d'ailleurs, c'est Kvaratskhelia là qu'il a été meilleur que lui avec le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que si la France remporte, et peut-être c'est ce qui a entaché un peu la saison de Kylian Mbappé, parce qu'il était tellement très déçu pour n'avoir pas joué cette finale.
Exactement, il devait normalement être très déçu, parce qu'on sait que s'il gagnait ou s'il parvenait à qualifier son équipe en finale de cette Coupe du Monde, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'on a vu que lui, comme tous ses coéquipiers, se sont fait bouffer par l'Espagne, il aurait dû peut-être prétendre à ce titre du Ballon d'Or, et ça pouvait peut-être en quelque sorte sauver sa saison. On parle quand même d'une des saisons blanches face à un joueur qui a toujours été pichichi chaque saison. Donc c'est là que moi je me dis que ça vaut bien de faire des stats individuelles, de marquer des buts, de marquer plus de 40-50 buts par saison. Mais dès lors où vous ne parvenez pas à faire gagner vos coéquipiers ou à gagner l'équipe dans laquelle vous jouez, ça ne sert à rien. On ne retiendra
rien.
Mbappé
n'a pas gagné depuis le début de sa carrière.
Mbappé a gagné, je crois, avec l'équipe de France en 2018. Et après, si vous me dites qu'est-ce qu'il a été, en quoi il a été utile avec l'équipe de France depuis 2018, je ne saurais pas le dire.
Merci, oui, Désiré. Une minute.
Alors, on parle de la petite. Des fois,
on parle de la petite finale.
Ouais. Voilà, faut pas.
Avec pour vous, l'Angleterre a mérité sa place.
Qu'on peut prouver. Ouais. En troisième position.
Ouais.
Bah, je partage un
code. Sur l'ensemble de la compétition, ouais.
Il y a des faits. Tout le monde sait que je suivais les reportages après. Les joueurs français étaient sonnés après l'élimination contre l'Espagne. Ils n'avaient plus rien à faire. C'était la même situation chez les Anglais. Donc ils avaient perdu le match le plus important, ils s'attendaient à la finale, ils s'attendaient à jouer la finale de la Coupe du Monde et l'emporter. Du coup, c'était un match sans enjeu presque pour tout le monde. Mais après, pour la bonne forme et pour la suite, il y avait ce que je peux appeler des mini-enjeux dans cette partie, et ça a été réalisé à la perfection dans les deux côtés. Il y a Thomas Tuchel qui qui a eu la confiance de sa fédération parce qu'il a été, parce qu'il avait déjà été reconduit avant la Coupe du Monde, mais la fédération anglaise a renouvelé sa confiance en lui. Les cadres également ont compris qu'il pouvait continuer avec Thomas Tuchel malgré ce qui s'est passé. Alors, il avait besoin de maintenir un cap et maintenir de l'espoir. Il a fait. Et Bukayo Saka, qui, pour moi, qui a été laissé au banc injustement, ça reste une analyse personnelle, il a fait un triplé, au moins quand même, il aura fait un triplé dans un match de Coupe du Monde, parce qu'au match de Coupe du Monde, reste un match de Coupe du Monde. Il y avait d'autres mini-objectifs pour Mbappé finir meilleur buteur, parce que il y a toujours ces combats à distance avec Messi, finir meilleur buteur déjà, soulier d'or de cette Coupe du Monde, mais également meilleur buteur de l'histoire. Il a fait. Il y avait également un mini enjeu pour Michael Olise qui voulait finir.
Il y a une petite finale. Il y a la finale.
Voilà, qui voulait finir meilleur passeur. Jusque-là, il a fait le boulot. Mbappé a mis deux buts. Mettre deux buts, c'est mettre en sécurité. Au moins, s'il finit pas meilleur buteur, c'est vraiment ex aequo avec Messi, à moins que Messi fasse un triplé en finale, comme Mbappé l'avait déjà fait en 2022. Olise a fait double assist, donc jusque-là il est meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Ça a été fait, donc ça a été réalisé de deux côtés malgré la déception, mais je crois que les deux équipes ont tenu une victoire qui ne fait pas parler. Deux passes décisives parce que Mbappé, il y avait 4 buts.
Il en a 6 au total. Hein.
Voilà.
7 d'ailleurs. 7
pour cette coupe du Monde. Donc, de ce côté-là, vu les enjeux de ce match, je crois que la tradition a été. La tradition a été respectée et on attend maintenant la finale et les prochaines échéances pour les deux nations.
Voilà, pour les deux nations. Deschamps
a déjà parlé. Bon, oui, c'était son dernier match. Oui, c'était fini. Polichinelle, c'est parti. Ah. On attend maintenant Zizou pour reconstruire.
Alors, on va clôturer cette émission avec la finale de la 60e édition de la Coupe du Congo. Le football qui va opposer Virunga de Goma à l'AS Boutras de Lubumbashi, c'est dimanche au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Les deux équipes ont décroché leur qualification jeudi à l'issue du demi-finale disputé dans la capitale congolaise. Virunga, représentant de la ville de Goma au Nord Kivu, a créé la surprise en éliminant les tenants du titre, l'AS Simba de Kolwezi, après un match disputé et sans vainqueur à l'issue des temps réglementaires. Les montagnards se sont imposés lors de la séance des tirs au but, 4 tirs à 3. À l'issue de cette qualification historique, l'entraîneur de Virunga, Tifo Miezi, a salué la prestation de ses joueurs et le travail de préparation effectué avant cette rencontre. On a gagné, on part en finale. Je suis très content. Nous avons eu le temps d'étudier l'équipe adverse à travers ces séances de vidéo. En première période, nous avons bien tenu les coups. En deuxième mi-temps, nous avons raté plusieurs occasions et l'essentiel était de gagner. Bravo à mes joueurs. Dans l'autre demi-finale, l'AS Boutras de Lubumbashi a validé son billet pour la finale en battant l'OS et les élites des Congo Central sous la petite démarque 1-0. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Lucas Simouama à la 36e minute des jeux, permettant aux Louchois de poursuivre leur parcours dans cette compétition. Pour l'entraîneur adjoint de l'AS Boutras, Doudou Kabolé, l'objectif fixé avant la rencontre était atteint. Aujourd'hui, notre objectif était d'atteindre la finale. Peu importe la manière, l'essentiel est de gagner. Depuis le début de notre ambition est de ramener la Coupe à Lubumbashi, a affirmé les techniciens. La finale entre Virunga et l'AS Boutras se jouera les dimanches aujourd'hui dans le Costa de Tarafael à Kinshasa. Le coup d'envoi est prévu à 14h et les deux équipes tenteront donc d'inscrire leur nom au palmarès de cette 60e édition de la Coupe du Congo. Des football, Tifo Miezi va donc peut-être entrer encore plus dans l'histoire. Il est trop chanceux, hein. Il a été avec Étoile du Kivu, il a ramené Étoile du Kivu en première division, il a quitté Étoile du Kivu,
il a maintenu Étoile
également, il est allé à Virunga aujourd'hui, il est en train de faire une très très bonne fin de saison avec Virunga malgré une mauvaise passe en Ligue 2.
Il est arrivé,
il a pris l'équipe, il a engagé l'équipe en Coupe du Congo et aujourd'hui il est en finale et peut-être qu'il va remporter cette finale pour donner peut-être à Virunga un titre et qualifier Virunga pour la Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine. Alors on va dire merci à tous les amis qui nous ont suivis. Peut-être le temps de décortiquer quelques messages des auditeurs avant de clôturer complètement cette émission Sport pour tous. Il y a beaucoup de messages qui nous sont parvenus de la part des auditeurs. Merci à notre ami Lucien Moiti qui était en train de nous suivre. Bonjour à Héritier, nous demandons à Désiré de ne prendre la parole que lorsque c'est son tour de la prendre et non de la prendre en désordre. Ça nous dérange. De même, je suis curieux de constater que Désiré fait un effort de ne pas être du bon côté de l'histoire et d'analyser les faits comme ils sont. pourquoi est-il ainsi? Alexis, tiens-toi à lui envoyer ce message. Malheureusement, vous n'avez pas dit ce qu'il désirait à donner comme analyse.
C'est un fan de Messi.
Qui n'est pas de l'autre côté de l'histoire.
Ça se comprend que c'est un fan de Messi.
Bonjour, c'est Docteur Bienvenue Mathias Boussoubi, désiré et complotiste. Ça veut dire quoi?
C'est sûr, je le suis. Au moins lui, quand même. C'est quelqu'un qui réfléchit, je le suis.
Badou Hassani, l'équipe de l'Espagne va remporter la Coupe du Monde aujourd'hui. Badou Hassani, à partir des Bolo 6, nous a envoyé ce message. Mon souhait, c'est de voir l'Espagne soulever le trophée ce soir, mais je ne vois pas Messi le laisser faire. L'Argentine est une équipe de longue expérience. Bon, quel est le meilleur l'emporte? C'est Madame Bora qui nous a donc envoyé ce message. Entre l'Argentine et l'Espagne, il n'a pas de préférence que le meilleur l'emporte. Merci Benjamin d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie de l'invitation.
Merci à vous, Désiré.
Merci beaucoup.
Peut-être un petit pronostic, Benjamin, pour ce soir. Hein.
Oui, pour ce soir, comme je le disais, je vois bien l'Argentine faire le back-to-back avec un Lionel Messi époustouflant avec un Lionel Scaloni à la tête des séchés d'œuvre.
Voilà. À vous.
Moi, je crois... Bon. C'est Mathias qui a parlé du complotisme. Oui, je fais partie.
Ouais, bienvenue Mathias.
Je peux comprendre. Oui, je fais partie de. Je suis complotiste, bien évidemment. Je crois également à la numérologie. Donc, la numérologie n'a pas marché pour Cristiano Ronaldo.
Ça peut marcher.
On s'attendait au 6. Ouais. J'espère que le 19 va marcher pour
la mini-amal. Là, c'est parce que vous ne voulez pas seulement que Lionel Messi remporte la Coupe du Monde.
Je dis, c'est mes convictions. Tout le monde sait que je n'aime pas Messi. Je ne souhaiterais pas qu'il gagne.
Je vous taquine.
Mais j'ai aussi de convictions politiques, philosophiques et religieuses. Et je vous dis déjà, dans le complot, je suis. Et dans la numérologie, je suis. Il y avait vraiment une vraie logique pour Cristiano, pour les chiffres 6 pour Cristiano. Malheureusement, ça a marché parce qu'il y a ici mené du temps additionnel et ça a condamné Cristiano. Ça peut aussi marcher. Je crois au 19 pour Lamine Yamal, 19 ans, 19 et tout ça. Il y a 19 qui s'enchaînent. Donc,
merci.
Je me dis peut-être que ça peut marcher de ce côté-là.
Merci beaucoup, Désiré. Merci à vous, Arkad.
Bon, déjà, une chose est vraie, même si Messi ne gagne pas la Coupe du Monde aujourd'hui, on sait que les débats du GOAT sont déjà clos depuis 2022. Mais s'il arrivait déjà que Messi gagne
c'est vous qui faites les débats, on sait à quel point ça peut
faire mal à la plupart des voisins. On ne savait pas qu'un jour il pouvait compter sur Lamine Yamal, ce qui est le cas aujourd'hui. On
voit non, je ne le compte pas.
Ils pensent tous que ce soit nécessairement l'Espagne qui gagne. Pour moi, j'aurais aimé également voir l'Espagne gagner sa première Coupe du Monde et Lamine Yamal gagner sa première Coupe du Monde à 19 ans. Mais il faut dire une chose, c'est que l'Argentine, pour moi, je pense que avec l'excès qu'ils ont comme expérience, avec l'équilibre que Scaloni sait avoir dans presque tous les matchs, même quand il est en difficulté, et avec bien sûr Léo Messi, capable de débloquer à n'importe quelle situation. Personnellement, je crois à un back-to-back de l'Argentine, même s'il faut dire que ça sera encore une fois un match où on aura une grande équipe d'Espagne qui vont faire sortir encore du grand jeu, qui seront encore dominataires dans la possession et tout. Mais personnellement, je pense que l'Argentine fera encore une fois un back-to-back et qu'on aura à assister à une fée de carrière internationale du meilleur joueur de tous les temps.
Voilà, exercé.
Ouais, moi, je pense que l'Espagne va remporter la coupe. Là, maintenant, on ne peut plus se cacher. Je pense que l'Espagne va remporter la coupe parce que, justement, il y a quelqu'un sur le banc qui a façonné cette équipe depuis son arrivée et qu'en face, il y a un Scaloni qui sera bien bouffé. Je pense que c'est dès ce soir que vous allez me donner raison parce que pour moi, tactiquement, De La Fuente, il va bien bouffer Scaloni. Et puis, s'il faut terminer sur un dernier mot, je pense...
Si je peux placer
un mot sur la Coupe du Congo, je pense que c'est l'une des plus grandes réussites du football congolais cette année, à part le sacre des Mazembe, bien évidemment, parce que depuis un certain moment, on se disait que c'était devenu une Coupe du Congo où on s'est dit, il y a des SMP, il y a des clubs qui n'ont pas réussi à se qualifier pour l'Afrique. Et puis, ils passent par la Coupe du Congo, tout est préparé au préalable. Donc, déjà là, on a deux équipes qui viennent des divisions inférieures qui peuvent aujourd'hui remporter cette Coupe du Congo. L'année passée, c'était les Simba qui est allé jusqu'en Coupe de la Confédération. Donc, c'est déjà l'une des plus grandes réussites. Et puis, peut-être qu'on y reviendra.
Mais pour les interclubs, de
ramener le championnat de la saison dernière les peintes de Mazembe, les TAS qui a dit que bon, le titre des Aigles du Congo doit être remis en question parce que le championnat doit se poursuivre, le championnat de la saison dernière.
On va y revenir parce que la grande actualité aurait été donc la Coupe du Monde, comme le rideau tombe sur la Coupe du Monde aujourd'hui. C'est sûr que le dimanche prochain, nous allons revenir à beaucoup plus sur le football national et voir ce qui peut être projeté pour améliorer encore une fois de plus le football congolais, notamment l'INAFOOT. Vous avez parlé du fait que les championnats parfois n'arrivent pas à la fin. Mazembe s'est plaint à un certain moment avec ce qui entourait les sacres des aigles du Congo. Alors, on va donc tous revenir le week-end prochain, le dimanche prochain, avec beaucoup plus de détails. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission Sport pour tous. Clindé à Papindeg qui nous a suivis. Merci à bienvenue Mathia Boussoubi et à tous les amis du groupe Parlons Foot. Merci à Michel Mwandabwezi. Merci à Banzaïve. Merci à Irma à partir de Kinshasa. Merci à Christelle Kalumuna. Elle nous a suivis à partir de Lubumbashi. Merci surtout à Joseph Chizungu qui nous a mis en onde. J'étais héritier Boroto. La présentation. Prenez rendez-vous avec nous les dimanches prochains. Même heure, même fréquence. Au revoir. Étoile.